aujourd'hui, c'est une nécessité pour beaucoup de gens, si j'ai pas envie de dire tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui pourraient me servir de contre-exemple et me montrer leur bilan sanguin avec une alimentation parfaite, et dans ce cas-là, génial. Mais dans la majorité des cas, je constate, les études le montrent, que la population, en général, n'arrive pas à atteindre les besoins micronutritionnels de base pour la majorité des micronutriments. Et là, on parle juste de besoins de base, de besoins journaliers. On ne parle même pas des besoins pour obtenir les effets, et on ne parle même pas d'effets thérapeutiques de certains micronutriments.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Dans un monde où notre alimentation ne couvre pas toujours les besoins, les compléments alimentaires jouent un rôle précieux. Mais à condition de bien les comprendre. Donc si le monde des compléments alimentaires peut vous sembler vaste, technique, voire un peu déroutant, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on reprend tout depuis le début. Quels suppléments sont vraiment essentiels? À quoi servent-ils concrètement? Et comment savoir lesquels nous conviennent? On a reçu de nombreuses questions sur les réseaux sociaux aussi. Et on va essayer d'y répondre avec clarté, pédagogie, mais surtout sans langue de bois. Pour m'aider à vous y voir plus clair, j'ai un invité, William Cadmeri. Bonjour.
Bonjour Noémie, bonjour tout le monde.
On est ravis de te revoir sur le plateau à Berlin.
Plaisir partagé.
Tu es ancien coach sportif naturopathe, formateur et ambassadeur de Sonde Naturelle. Pour celles et ceux qui nous rejoignent récemment, en fait, on a déjà fait une vidéo que je vous invite à voir sur YouTube. C'était l'année dernière. On a déjà fait un tour d'horizon autour de la naturopathie. Là, le but, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais avec une petite mise en garde importante, hein, tout ce qu'on va dire aujourd'hui dans cet épisode est uniquement à but informatif et éducatif. Ça ne remplace pas du tout un avis médical personnalisé. Et si on va se baser sur des données scientifiques et des expériences de terrain, on ne peut pas connaître en fait votre situation individuelle, ni votre profil médical comme vos antécédents. Alors s'il vous plaît, avant de modifier votre routine de complément ou de commencer une supplémentation, pensez à consulter un ou une professionnelle de santé. C'est vraiment important. William, question honnête, à ton avis, pourquoi je t'ai choisi pour parler d'un sujet aussi vaste qu'important pour nous, Sonde Naturelle, l'utilisation des compléments alimentaires?
Avec beaucoup d'humilité, ça fait longtemps que je m'intéresse à la micronutrition. Je me suis formé avec plusieurs formations, avec notamment des DU, et c'est un sujet que j'ai abordé un peu plus en profondeur peut-être que d'autres naturopathes, pour lequel je me passionne énormément. Donc je pense que je suis assez légitime pour en parler, et maintenant ambassadeur de Sonde Naturelle. Donc, on va dire que je connais très, très bien votre gamme de 1800 produits, je crois. Donc, encore des choses à approfondir. Je découvre toujours des nouveautés à chaque fois que je suis sur le site internet. Des fois, je me dis, ah, mais celui-là, je ne l'ai pas vu, celui-là, je l'ai pas vu. Et j'apprends même certaines choses grâce à des compléments alimentaires qu'on utilise très rarement, qui sont des compléments alimentaires vraiment de niche que je découvre sur Sonde Naturelle. Donc, voilà.
J'avoue que moi, c'était plutôt pour le côté formateur, parce que tu vas avoir une école là, tu vas être prof carrément, et que tu fais beaucoup de vulgarisation pour les gens, tu réponds à énormément de questions sur ton compte Instagram, et donc je me suis dit, si tu arrives à parler à autant de gens, c'est plus facile d'aller dans des sujets un peu plus spécifiques, donc en tout cas... On est là aussi faire un peu la classe, on va dire, sur les compléments alimentaires.
Je vais essayer d'avoir le maximum de pédagogie. Je sais que des fois, je peux parler vite. Je me suis réécouté un petit peu dans mon ancien podcast.
Ah,
donc
oui.
Je vais essayer d'être un petit peu plus, un peu plus slow, parce que c'est vrai que j'ai un débit de parole assez, assez important. Et du coup, je vais me poser.
Après, comme ça, les gens, ils peuvent revenir en arrière.
Moi, je conseille aux gens de m'écouter en 0,75. En 0,75. Je parle très vite. Désolé.
La dernière fois, je ne t'avais pas posé la question, mais je la pose à toutes les personnes qui sont invitées sur le podcast. Le dimanche, c'est sacré chez Sunday. Et du coup, c'est quoi ce qui est sacré pour toi dans ta routine le dimanche?
Waouh, le dimanche. Alors moi, je bosse 7 sur 7 et j'ai fait le choix d'avoir des journées, on va dire, avec une charge de travail étalée. Je préfère travailler du matin jusqu'au soir, mais avec plein de pauses pour m'occuper de mes filles, profiter de ma famille, de ma femme, faire du sport, aller à la plage maintenant que j'habite au Portugal. Donc j'ai une journée qui est très étalée, mais avec plein de petites pauses et je suis toujours en flux tendu, donc je travaille 7 sur 7. Donc le dimanche, pour moi, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, ça ne change rien du tout. Sauf que, bon, bah, bien évidemment, en période scolaire, je suis un peu plus avec mes filles.
Maintenant que tu vas ouvrir ton école, est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit cours de base sur quand les compléments alimentaires ont été inventés? Parce que c'est bien de revenir un peu dans l'histoire.
Alors, les compléments alimentaires, en fait, l'être humain en a toujours plus ou moins consommé. Si on regarde ce que c'est que les compléments alimentaires, ça peut réunir des micronutriments, ça peut réunir des plantes médicinales. Donc, finalement, l'argilothérapie, etc., l'utilisation de l'argile, ça remonte à l'Antiquité. Donc, si on veut parler de compléments alimentaires avec la vision moderne, c'est le conditionnement en gélules. Donc, c'est à partir du moment où on a commencé à pouvoir conditionner certaines molécules avec les avancées technologiques dans enfin, des compléments alimentaires, des micronutriments dans des gélules, faire des formulations un peu plus innovantes. J'ai pas de date précise en tête, mais je pense que c'est à partir du début du XXe siècle et plutôt à partir des années 50, 60 que la micronutrition a gagné un peu plus en visibilité au travers des publications scientifiques et encore plus récemment à partir des années 70-80.
Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vient pas aussi aux connaissances un peu plus anciennes? Par exemple, on cite un peu plus l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, même l'herboristerie médiévale. J'avais vu beaucoup, on en parle même sur Sunday, Hildegard de Bingen. Et du coup, tout ça, on les cite. Ça vient des traditions millénaires pratiquement et pas des années 70. Comment on peut expliquer ça?
Alors, pour ce qui est de l'utilisation des plantes, par exemple ayurvédiques, etc., c'est la mondialisation qui nous a permis aujourd'hui d'accéder à tout un tas de ressources, tout un tas de plantes qu'on ne connaissait même pas. Moi, personnellement, même en médecine chinoise, il y a énormément de plantes que je ne connais pas déjà, qui ne sont même pas traduites correctement en français. Donc, on a, en termes de pharmacopée mondiale, une diversité de plantes extraordinaire. Et aujourd'hui, avec la possibilité de se déplacer plus facilement pour les entreprises, d'aller sourcer les produits, eh bien, on a ça. On a des produits qu'on utilisait peu il y a encore ne serait-ce que 10 ans qui arrivent sur le marché et le marché européen, et notamment grâce à Sunday qui permet bah, de découvrir tout un tas de produits de la pharmacopée asiatique, de la pharmacopée indienne, etc. Donc, je pense que c'est surtout grâce à l'ouverture, on va dire, du monde, en tout cas la mondialisation, qu'on a la possibilité d'accéder à ce genre de produits.
Donc c'est pour ça que c'est assez récent au final.
L'utilisation en France, en tout cas, en Europe, des plantes médicinales traditionnelles chinoises, ayurvédiques, d'Amérique latine, etc. Oui, je pense que oui.
Et en parlant du coup de marché de compléments alimentaires, aujourd'hui c'est un marché énorme, on compte plusieurs centaines de milliards dans le monde. Pourquoi les gens se tournent et achètent de plus en plus de compléments alimentaires aujourd'hui?
Alors, parce qu'il y a une éducation qui a été faite en France. On est quand même relativement en retard quand on voit ce qui se passe du côté des pays anglo-saxons, même en Allemagne, où la tradition du complément alimentaire est quand même plus ancrée de ce que j'ai pu comprendre. Pas tous les médecins, mais plus de médecins recommandent des vitamines, des oligo-éléments. En France, en tout cas, peut-être en Europe en général, on est un peu plus en retard à ce niveau-là. Et comment expliquer ça? Bah, la prise de conscience de la nécessité d'agir sur la prévention en amont de la maladie. Également, bah, les réseaux sociaux qui permettent de donner accès à énormément d'informations. Et ce qui pouvait être considéré comme une dérive, il y a encore quelques années, prendre plein de gélules, prendre des compléments alimentaires, aujourd'hui, c'est considéré comme presque une évidence pour beaucoup de personnes. Moi, le premier, quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, à la micronutrition, je trouvais ça complètement fou d'avoir besoin de se complémenter sur plein de micronutriments. Je me disais, mais non, on peut tout trouver dans l'alimentation. Et puis, en fait, commence à creuser. Moi, personnellement, c'est grâce aux consultations et grâce à toutes les analyses que j'ai pu demander aux personnes qui venaient me consulter, que j'ai pu voir l'ampleur des carences. Alors, je l'avais déjà entendu, on le voyait aussi dans les études scientifiques, mais quand on voit tous les jours en consultation, là on se dit ah oui d'accord, et même avec l'alimentation, quand on met en place un plan alimentaire qui est en théorie optimal, même dans une alimentation biologique, eh bien on a encore des carences parce que le mode de vie, parce que même dans une alimentation biologique, les terres sont complètement épuisées, lessivées, il n'y a plus de micronutriments, il y a plein de choses, il y a le transport, il y a la conservation, il y a la cuisson, il y a les besoins augmentés dans certaines problématiques, que ce soit, alors problématique, c'était pas une problématique, mais par exemple les sportifs, les personnes âgées, certaines certaines pathologies, le stress, la consommation de médicaments, etc. Il y a plein de choses qui peuvent augmenter les besoins dans plein de micronutriments. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité pour beaucoup de gens, si j'ai pas envie de dire tout le monde, parce que il y a toujours des gens qui pourraient me servir de contre-exemple et me montrer leur bilan sanguin avec une alimentation parfaite, et dans ce cas-là, génial. Mais dans la majorité des cas, je constate, les études le montrent, que la population, en général, n'arrive pas à atteindre les besoins micronutritionnels de base pour la majorité des micronutriments. Et là, on parle juste de besoins de base, de besoins journaliers. On ne parle même pas des besoins pour obtenir les effets...
le taux santé...
d'optimisation, exactement. Mmh. Et on ne parle même pas d'effets thérapeutiques de certains micronutriments. En fait... Pour la micronutrition, il faut voir ça à travers plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est de ne pas être carencé pour ne pas développer une maladie. Mm-hmm. Par exemple, vous êtes très carencé en fer, vous risquez d'être en anémie. Vous êtes très carencé en vitamine C, vous risquez de développer le scorbut, etc. Ensuite, il y a, après la carence, il y a le déficit où là, vous pouvez ne pas avoir suffisamment du micronutriment pour pouvoir valider vos fonctions biologiques correctement. Mm-hmm. Puis après, il y a les doses supra-optimal, où là, on va pouvoir obtenir des effets supplémentaires, par exemple, sur certaines problématiques, sur certains symptômes. Prenons l'exemple du coenzyme Q10 ou de la vitamine B2 à haute dose qui peut être utilisée pour les migraines, la vitamine B6 pour les nausées durant la grossesse. On peut utiliser la vitamine B6 aussi comme un antihistaminique naturel, etc. Il y a beaucoup de choses dont personne ne parle pour ce qui est de la micronutrition. Beaucoup d'effets, d'indications que les micronutriments peuvent nous apporter à condition de sortir des valeurs nutritionnelles recommandées. Et ça, c'est vrai que, bon, déjà, il a fallu accepter le fait qu'il faille complémenter pour revenir à l'équilibre. Donc maintenant, il y a une éducation à faire sur le fait qu'on peut utiliser beaucoup de micronutriments à des doses supraphysiologiques dans des conditions spécifiques pour certains symptômes et avec des profils de sécurité pour la majorité des nutriments. Alors, bien sûr, il y a plein d'exceptions, mais pour la majorité des nutriments, qui est extrêmement favorable. Donc, prenons l'exemple des vitamines du groupe B, lorsqu'elles sont dans des formes bioactives, à des doses qui peuvent dépasser les 1000 fois les apports journaliers recommandés, on constate aucun désagrément, aucun effet secondaire. Le corps les élimine très facilement, via les reins notamment.
Donc ça, c'est plutôt... par exemple, quand il y a des médecins qui recommandent de faire ça,
Alors, que ce soit des médecins, des naturopathes, on peut utiliser la micronutrition à dose supraphysiologique quand c'est bien fait, bien évidemment. Mmh. Et d'ailleurs, sur Sunday Natural, on le voit, certaines vitamines sont dosées bien au-delà des valeurs nutritionnelles recommandées. Bien évidemment, en France, il y a un cadre légal qui fait que sur certaines vitamines, on ne peut pas dépasser les apports journaliers recommandés. Mmh. Pour d'autres, c'est le cas, on a le droit, notamment la vitamine B12, par exemple. Prenons l'exemple d'une végétarienne qui va être carencée en vitamine B12. Pour remonter sa carence, ne serait-ce que son médecin va lui donner des ampoules de vitamine B12 dosées à 1000 microgrammes, ce qui correspond à 40 000 fois les apports journaliers recommandés. Mmh. Et on n'a pas de surdosage à prendre une fois par semaine en général, mais c'est plutôt quand il y a une carence, une à deux fois par jour, 1000 microgrammes qu'il faut prendre, voire même dans certains cas, jusqu'à 5000 microgrammes par jour. Donc 5000 microgrammes par jour, ça fait 200 000 fois les apports journaliers recommandés. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour expliquer qu'en France... on est encore très en retard sur l'utilisation des micronutriments à dose supraphysiologique. Peut-être que c'est une bonne chose pour certains micronutriments pour éviter de faire n'importe quoi, je l'entends tout à fait, mais c'est dommage qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment, comme ce qu'on peut voir notamment en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, où ça fait très longtemps que beaucoup de médecins utilisent certains micronutriments à des doses bien au-delà.
Surtout la vitamine D, c'est connu en
Allemagne. Voilà. Exactement, la vitamine D, les apports journaliers recommandés en France sont à 600 UI, unité internationale, alors qu'il faudrait, pour pouvoir corriger une carence, en général, ce qu'on observe, c'est plutôt entre 2, voire 4 000 et 10 000 unités internationales par jour. Donc, on est très très loin des valeurs optimales. Et de toute façon, on le voit quand une personne se fie aux apports journaliers recommandés et essaye de remonter une carence sans l'exposition solaire, bien évidemment, qui devrait être la première source de vitamine D pour la majorité des gens, pour tout le monde. On devrait privilégier le soleil. Mais quand on n'a pas la possibilité, eh bien, supplémentation en vitamine D. Et là, à 600 unités internationales par jour, personne ne va nulle part. On le voit, ça ne bouge pas.
On va reparler encore de la vitamine D un peu plus tard. Là, on parlait un peu des cas où il faudrait se supplémenter. Avant même d'envisager une supplémentation, est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. On parlait de l'alimentation, on disait que, par exemple, l'alimentation, il faudrait qu'elle soit parfaite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être revoir un peu son hygiène de vie avant de passer à la supplémentation.
Alors, tu vois, là, ce que tu dis, c'est évident. Et pour les personnes qui débuteraient, qui commencent à s'intéresser à la santé, c'est évident. Mais moi, j'ai passé presque 8 ans avant de commencer à vraiment faire du contenu micronutrition très poussé. J'ai passé 8 ans à expliquer aux gens qu'il fallait faire du sport. J'ai été coach sportif pendant presque 10 ans. S'alimenter correctement, dormir correctement, avoir un rythme de vie physiologique proche de la nature. Moi-même, quand j'étais en France, j'habitais à la campagne. J'ai toujours prôné un mode de vie sain, ce qu'on va appeler en naturopathie l'hygiène. C'est-à-dire essayer de mettre le corps dans les conditions les plus favorables possibles au travers des différents éléments, comme on vient de le dire, nutrition, alimentation, sommeil, activité physique, exposition à la lumière du jour, pleine nature, environnement naturel, relations psychosociales positives, spiritualité. Et ça, j'en parle plus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens le font même mieux que moi maintenant. J'en ai beaucoup parlé et j'estime que pour la communauté que j'ai, qui me suit depuis longtemps, ça y est, c'est un acquis. Et parfois, je fais des rappels qui sont très importants. Mais on a tous une journée bien remplie. Et moi, mon temps, je l'investis un peu plus à communiquer sur des choses un peu plus techniques, sur la micronutrition, parce que j'estime avoir fait le boulot de prévention à ce niveau-là. Et si c'est pas, si beaucoup de gens n'ont pas encore acquis ce niveau-là, je vous invite à regarder plein d'autres comptes Instagram, plein d'autres chaînes YouTube qui parlent très bien de tous ces sujets-là.
Dans les épisodes précédents, on parlait même des quatre piliers de la santé. Donc, tu as dit sommeil, alimentation, stress.
Activité physique.
Activité physique. Donc, c'est vraiment ces choses-là à prendre en compte avant de passer
ou en même temps parce que en fait pourquoi ne pas gagner du temps et faire en sorte que la personne soit dans un environnement micronutritionnel, et la micronutrition fait partie intégrante de l'alimentation. Donc finalement, on a le pilier alimentation qui est très important, qui va regrouper la micronutrition également. Donc on gagne du temps, on optimise les différents piliers. On essaye d'imaginer, comme dans un camembert, d'être assez équilibré dans tous les axes. Au début, l'erreur que j'ai pu faire, c'est de passer tout mon temps à parler que d'alimentation en négligeant le fait que beaucoup de gens avaient, par exemple, un environnement toxique ou passaient beaucoup de temps dans la journée assis sur une chaise. Et chez eux, ce n'était pas le fait de rajouter une restriction alimentaire en plus ou bien de compter tel ou tel gramme de protéines dans l'assiette qui allait changer la donne. Ça ne servait à rien d'investir plus d'énergie là-dedans. Il fallait que le camembert soit un peu plus équilibré dans les autres domaines.
Du coup, une fois qu'on a passé tous ces caps-là un peu en revue et de se poser les bonnes questions, l'autre question qui viendrait, c'est est-ce qu'il faut savoir qu'on a une carence aussi avant de passer le pas ? À quel moment et à quel point on doit faire contrôler son sang ?
Ok, alors ça, c'est une très bonne transition. Moi, le contrôle du sang, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, mais c'est vrai que faire des bilans sanguins, aujourd'hui, ça peut devenir compliqué ou bien c'est un coût. C'est un coût qui, dans une démarche de prévention, est largement rentabilisé parce que on tombe moins malade, on est moins fatigué, on est plus productif au travail, on a moins d'arrêts maladie, etc. Donc, dans une vision très pragmatique, c'est un coût qui est très, très rapidement amorti. Donc, c'est un investissement, en quelque sorte. Mais j'entends que beaucoup de personnes ne puissent pas forcément payer quelques centaines d'euros pour pouvoir accéder à des bilans sanguins. Quoi qu'il arrive, tout le monde a besoin de micronutriments, et il y a certains micronutriments clés qui peuvent être donnés à tout le monde, même sans bilan sanguin. Donc, cela, c'est, on peut les présenter, mais ce qu'on présente régulièrement sur les réseaux sociaux, donc vous avez le magnésium, tout le monde est quasiment carencé en magnésium, pour plusieurs raisons, le stress, le manque d'apport alimentaire en magnésium, l'activité physique qui peut être trop éreintante pour certains, les problématiques d'absorption intestinale, et là c'est pas que pour le magnésium, on peut avoir également une fuite du magnésium quand on est trop stressé, quand on boit en excès du café, des stimulants, et c'est ce qui donne beaucoup de carences en magnésium chez beaucoup de gens. Et l'apport en magnésium va être aussi très important pour activer certaines réactions chimiques, certaines vitamines, notamment la vitamine D. Parce qu'il faut savoir que le magnésium, c'est plus de 300 réactions enzymatiques, réactions chimiques, qui dépendent de ce micronutriment. Donc, vous avez plusieurs micronutriments basiques que tout le monde peut prendre, voire devrait prendre, pour essayer d'optimiser à minima sa santé sans forcément passer par un bilan biologique. On a le magnésium, on a la vitamine D, sauf en cas d'exposition solaire régulière, toute l'année, si possible. Et une vraie exposition solaire. Il ne s'agit pas juste de sortir 5 minutes, un quart d'heure pour aller marcher, pour aller au travail. Non, on parle d'exposition solaire prolongée en fonction de son phototype, je précise, sans crème solaire, pour l'exposition solaire. La crème solaire, c'est un autre débat qu'on ne va pas forcément ouvrir la boîte de Pandore. Sans couvrant, exactement. Et aux heures où on peut synthétiser correctement la vitamine D. Bien évidemment, en respectant sa peau, la couleur de peau qui va contenir plus ou moins de mélanine, qui fait que la peau va pouvoir se protéger ou pas correctement des UV. Donc la vitamine D, pour beaucoup, même en été, elle est nécessaire parce que, bon, bah, regarde, là, on est dans un... On est en été, on est en Allemagne.
Il pleut,
il fait 16 degrés. Vous êtes toute la journée au bureau.
Ouais.
Même si il y a quelques fenêtres, c'est des fenêtres, donc elles bloquent complètement les UVA, les UVB. Donc vous ne synthétisez pas de vitamine D ici, donc c'est vitamine D à l'année chez Sunday Natural, tous les jours, même en été.
On va revenir un peu plus loin dans les carences, j'ai déjà d'autres questions,
d'accord.
T'inquiète, ça va venir. Okay. Mais du coup, si on veut passer le pas, si on veut prendre le temps, investir... Tu recommanderais combien de fois des analyses
dans l'année
labo, ouais.
Alors, pour une personne qui n'a pas de problématique spécifique, pour une personne qui n'a pas de pathologie, où on n'est pas en train de rechercher vraiment des ajustements très spécifiques, une prise de sang annuelle complète, ça permet déjà de comprendre ce qui se passe, ça permet de faire un tour d'horizon et de mettre en place une supplémentation intelligente qu'on va pouvoir garder plus ou moins toute l'année. Et ça, c'est l'idéal. Maintenant, quand il y a des grosses carences, on va réévaluer peut-être au bout de 3 mois, 6 mois, voire même dans des espaces de temps plus réduits, notamment pour la carence en fer, où on va supplémenter en fer, mais on ne veut pas non plus surdoser. Donc, on va vérifier s'il y a une carence peut-être 6 semaines après la supplémentation.
Ah ouais.
Et ensuite, on va vérifier 3 mois et à 6 mois pour voir pour pouvoir constater l'évolution sans faire du surdosage au niveau du fer. Donc le fer, c'est un micronutriment. Le docteur Curté a dû en parler longuement lors du dernier podcast, je ne sais pas.
Il a plutôt parlé du magnésium, mais c'est vrai que le fer, on en parle plutôt dans les sujets avec les femmes,
ouais.
Qui sont plus sujets à avoir cette carence. Mais pas autant, non, pas avec docteur Curté.
D'accord, parce que lui, justement, il...
C'est la question.
Non, mais il fait très attention au fer, justement,
ouais.
Parce que le fer en excès est oxydant. Donc on veut se supplémenter juste... pour remonter une carence, et ensuite on essaie d'aller chercher le fer uniquement dans l'alimentation ou avec une micro-supplémentation en annexe, par exemple pour les femmes durant les menstruations.
Et là, du coup, on part un peu sur la supplémentation de base qui tout le monde devrait avoir. C'était une question qui était revenue beaucoup. Surtout la question, c'est quoi une supplémentation de base pour une personne lambda? Et même moi, j'étais un peu confuse par cette question parce que c'est quoi une personne lambda?
C'est difficile à définir, mais bon, on va essayer de donner quelques axes. Et on a parlé déjà du magnésium, donc beaucoup de gens sont stressés.
Ouais.
Beaucoup de gens sont stressés, beaucoup de gens consomment du café, beaucoup de gens n'atteignent pas les valeurs en magnésium journalière optimales. Donc le magnésium fait partie des micronutriments indispensables. On a parlé de la vitamine D, donc tu vois la vitamine D, si moi au Portugal, j'arrête de me supplémenter à partir du mois d'avril à peu près, et encore que j'ai pas fait de prise de sang au mois de mars pour savoir si, parce qu'en décembre j'étais à la plage encore. Donc je sais pas du tout si j'avais besoin ou pas de me supplémenter au mois de... jusqu'au mois de mars. Mais en tout cas, je me suis supplémenté jusqu'au mois de mars, début avril. Et là, je ne me supplémente plus et je ne vais pas me supplémenter jusqu'au mois d'octobre, sans doute. Tu vois.
Donc, parce que tu sors tous les jours.
Parce que je sors tous les jours, parce que j'ai une vraie exposition solaire. Et donc, voilà, ça dépend de l'endroit où on habite. Donc, c'est difficile de faire des généralités, mais on va essayer quand même de donner des grands axes. Donc, le magnésium, la vitamine D, ça fait partie des grands micronutriments dont beaucoup de gens manquent. Ensuite, on peut parler de la vitamine C. Alors, la vitamine C, on la trouve surtout, principalement, dans les fruits, dans les végétaux, et notamment dans les fruits acides, les agrumes, le kiwi, on en a aussi dans le poivron. Mais le problème, c'est que la vitamine C, elle est oxydée la majorité du temps quand vous mangez un fruit. Alors, en dehors du fait qu'il y ait peu de vitamine C aujourd'hui dans le sol, que l'aliment condense peu de vitamine C, on a aussi l'oxydation qui va être entre le moment où vous avez cueilli votre fruit et le moment où il arrive dans votre assiette, votre fruit ou votre légume, il s'est passé énormément de temps. Les cueillettes sont précoces. Ensuite, l'aliment déjà a peu de vitamine C. Le temps d'acheminement, jusqu'à votre assiette, la vitamine C s'est oxydée en partie. Ensuite, la majorité du temps, ce qui se passe, c'est que vous faites cuire les aliments. On fait cuire ses légumes la majorité du temps. On mange peu cru. Il y a des gens qui tolèrent pas du tout le cru. Donc, on va oxyder encore plus la vitamine C. Les agrumes aujourd'hui sont beaucoup plus denses en nutriments, donc en macronutriments, comme par exemple le fructose, le glucose, est beaucoup moins riche en micronutriments, donc la vitamine C. Donc vous avez de moins en moins de vitamine C, elle est oxydée, et ça fait partie, j'ai pas envie de dire une carence, mais un déficit qu'on peut avoir plus facilement. Et la vitamine C, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des bénéfices à supplémenter à des doses supra-physiologiques, enfin c'est pas supra-physiologique, c'est au-dessus des valeurs journalières recommandées qui sont extrêmement faibles. Et on peut avoir plein d'effets positifs. Donc la vitamine C, ça fait partie des nutriments très intéressants, notamment pour la prévention des infections, pour l'immunité, pour la peau également. Elle participe à la synthèse du collagène dont vous entendez tous beaucoup parler. La vitamine C, elle est aussi cofacteur enzyme, c'est-à-dire qu'elle permet à beaucoup de réactions chimiques de se mettre en place correctement. Moi, j'utilise beaucoup pour des consultants qui ont les glandes surrénales épuisées. Et dans ce cas-là, on va utiliser des doses plus importantes. Alors, comme chaque micronutriment, enfin pas chaque, mais beaucoup de micronutriments peuvent avoir des contre-indications à haute dose. Pour la vitamine C, si on prend des doses au-delà de 1000 mg par jour en continu et qu'on est déjà sujet aux calculs rénaux, on fait attention. Okay. Voilà. Mais là, c'est des spécificités, c'est important de le rappeler.
Il y a mon collègue Jason, qui est aussi hôte du podcast allemand, qui a fait plusieurs vidéos, et même moi, j'avais repris un peu son concept dans une vidéo sur Insta. C'est
la pyramide.
Ouais, c'est la pyramide d'Andrew Huberman, parce que du coup, maintenant, j'ai le nom, où il y avait trois niveaux. Et le premier niveau, c'était du coup ce dont on a parlé là, le magnésium, la vitamine D. Toi, tu mettrais la vitamine C, lui, il mettrait les oméga 3.
Mais je peux en mettre d'autres.
Hein. Ah, tu veux en mettre d'autres. Il avait mis aussi la B12 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont véganes ou végétariens. Et les multi. Est-ce que toi, tu mettrais plus de choses en supplémentation de base pour tout le monde?
Alors,
en premier
lieu, je mets déjà ce qu'il a dit. Donc, oméga 3, je le mets, on peut rentrer dans le détail pourquoi. Il y a le multivitamine qui est une très très bonne option pour tout le monde parce que vous allez avoir un peu de tout, mais peut-être pas suffisamment de chaque micronutriment. Et là, on passe à, du coup, à l'étape suivante de la pyramide, l'étage suivant où le bilan sanguin nous permet de savoir précisément ce dont la personne manque en détail. Mais donc, je mets le multivitamine, je mets les oméga 3, EPA, DHA. Les gens n'apportent plus assez d'oméga 3 au niveau de l'alimentation, qu'on va retrouver principalement dans les poissons gras, un petit peu dans les algues. Mais pour les algues, il faut que ce soit condensé dans un complément alimentaire. C'est pour ça que chez Sunday, vous avez des oméga 3 vegan à base d'algues qui contiennent beaucoup de DHA et EPA. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui ne veulent pas utiliser, qui ne veulent pas consommer de poisson gras à cause de que ce soit éthique, que ce soit aussi la peur des métaux lourds, etc.
Même on en achète moins de la viande et du poisson.
Oui, mais là, je parlais des compléments alimentaires.
Ouais.
Parce que les compléments alimentaires à base d'oméga 3, 90% du temps, c'est des compléments alimentaires d'origine marine. Donc, c'est des huiles marines. Donc oui, je mets complètement... Je suis totalement sur sa ligne avec les oméga 3. Le multivitamine, là aussi, c'est... Pour moi, pas un indispensable, mais presque. Et après, moi, je rajouterais, donc, comme il l'a dit, la vitamine B12, surtout chez les femmes, surtout chez les personnes qui ne consomment pas de produits carnés, chez les personnes qui ont des troubles de l'absorption intestinale, notamment au niveau de l'estomac, parce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine B12, elle est absorbée dans des conditions spécifiques, il faut que l'estomac soit suffisamment acide. Et quand l'estomac n'est plus assez acide, sans rentrer dans les détails, la vitamine B12 n'est plus absorbée correctement. Et ça, c'est une problématique qu'on observe chez beaucoup de personnes âgées et chez les personnes qui ont aussi pris des médicaments pour bloquer l'acidité gastrique, donc les IPP comme oméprazole, etc.
Ouais.
Les pansements gastriques qu'on va donner pour les personnes qui ont des reflux gastriques, qui ont des ulcères, des gastrites. Et pour la question du reflux gastrique, là aussi, c'est une boîte que je ne vais pas ouvrir, mais c'est... Pour beaucoup de gens, c'est pas justifié, c'est même l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faudrait plus acidifier l'estomac que supprimer l'acidité pour pouvoir calmer le reflux gastrique.
Mais ça, du coup, pour savoir si on a des problèmes comme ça, il faut voir quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait prendre sans savoir.
Tu parles de la vitamine B12?
Ouais.
Alors la vitamine B12, même à très haute dose, elle n'a aucun effet secondaire.
Okay.
Donc, on pourrait prendre de la vitamine B12. D'ailleurs, dans vos complexes multivitamines, la vitamine B12, elle est, je crois, minimum à 500 microgrammes. Donc, on est à 20 000 fois les apports journaliers recommandés. Tu vois. Donc,
donc, on peut en prendre même.
Tout le monde peut prendre de la vitamine B12. Les animaux sont supplémentés en vitamine B12 tellement ils ont du mal à la synthétiser aujourd'hui. Tellement on en trouve. En fait, la vitamine B12, faut savoir, c'est que ce sont les bovins, les animaux, les ruminants, pardon, qui vont consommer donc, de l'herbe, de la terre, et ils vont, avec leur microbiote, synthétiser la vitamine B12, donc avec des bactéries, grâce aux bactéries qu'ils trouvent dans la terre, en fait, grâce à une vitamine B12 inactivée, les bactéries vont venir l'activer. Et nous, on consomme donc de la B12 activée. Et il faut savoir, c'est que les bovins aujourd'hui sont supplémentés en B12 à cause des carences qu'ils ont aussi, parce que la terre est complètement vide. Donc, non.
Du coup, on donne la B12 aux animaux, juste pour nous ensuite, pour l'avoir dans notre assiette.
Pour qu'ils soient en bonne santé.
Pour qu'ils soient eux-mêmes en bonne santé.
Pour qu'ils soient eux-mêmes en bonne santé. Et nous, on va retrouver ça également. Mais c'est le cas de d'autres micronutriments. C'est le cas de l'iode aussi. Les animaux sont supplémentés en iode. En tout cas, c'est les animaux. Nous, on a besoin de se supplémenter. Tout le monde a besoin de se supplémenter. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile peut-être à intégrer, de devoir prendre des gélules. Parce qu'en fait, le format gélule, ça rappelle le médicament. Mmh. Et ça rappelle la dépendance. On se dit, je prends des gélules. Bon, déjà, ça peut être contraignant, le fait de les oublier, de les trimballer avec soi. Bon, on fait des super piluliers maintenant, des piluliers à la semaine. Mais je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai du mal à être constamment régulier avec mes bilans. Des fois, je vois certaines choses que je veux corriger. Je me mets en place une supplémentation. Donc, je comprends tout à fait que quand on ait beaucoup de compléments alimentaires à prendre, ça puisse être compliqué. C'est pour ça que l'option du multivitamine, c'est quand même pas mal. Ça permet de pas faire les choses parfaitement, mais déjà de commencer à mettre les pieds dans la prévention.
Du coup, je reprends tout pour être sûr que j'ai bien tout compris.
C'est pas fini, micronutriments.
Sur cette pyramide, on a en bas le magnésium, la vitamine D, les oméga-3, la B12.
Pour beaucoup, la B12. Mais la B12, pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, pour les personnes qui mangent des produits carnés, qui n'ont pas de troubles gastriques, vous l'avez normalement à des doses optimales. Si vous mangez de la viande, mais aussi dans un multivitamine, et si vous mangez de la viande d'abat.
Donc multivitamine, vitamine C.
Vitamine C, ouais.
Je ne suis pas sûre, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient carencés en zinc. Mais tu le mettrais aussi en
J'en ai encore deux à mettre pour tout le monde.
Ok, vas-y.
C'est le zinc et l'iode.
Et l'iode.
Voilà. Le zinc, comme tu l'as dit, en fait, on a une étude en France, c'est une des plus grosses études sur les carences, sur les compléments alimentaires, qui s'appelle l'étude Suvimax, qui a été réalisée en France, d'ailleurs, en Île-de-France. C'est une étude qui est assez ancienne maintenant, elle date de 1997, 2000, elle s'est finie dans les débuts d'année 2000, et c'est une étude qui mettait en évidence qu'en France, très peu de gens atteignent les valeurs nutritionnelles recommandées. On ne parle pas des valeurs pour la majorité des micronutriments.
Ah oui.
Et pour le zinc, par exemple, c'était 90% de déficit après 60 ans.
Mm.
Donc, le zinc, ça fait partie des micronutriments essentiels. Donc, essentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas synthétiser le zinc. C'est un oligo-élément qu'on va apporter via l'alimentation normalement. Donc, le zinc, on va le retrouver dans sa forme active, surtout dans sa forme biodisponible que le corps peut bien absorber. Surtout dans les produits animaux, que ce soit les fruits de mer, les huîtres, etc., que ce soit les abats. Donc les abats, c'est les aliments qui condensent le plus de micronutriments, de loin, de très très loin, pour tous les oligo-éléments, les vitamines du groupe B, pour certains acides aminés essentiels et non essentiels. Donc le zinc, ça fait partie des micronutriments très importants. Le problème du zinc, c'est qu'il est long à remonter, parce que même dans des formes biodisponibles, on a du mal à l'absorber correctement, parce qu'on va avoir des compétitions intestinales lors de l'absorption du zinc avec plusieurs autres métaux. Je vais essayer de vulgariser, mais quand vous mangez un nutriment, il faut qu'il soit absorbé via la muqueuse intestinale.
Mm-hmm.
Et via cette muqueuse intestinale, vous avez des transporteurs qui font rentrer, c'est comme si vous aviez un portier, un vigile, mm-hmm. qui laissait rentrer ce qui est censé passer ou non. Et pour le zinc, c'est le même vigile qui va laisser passer le fer, le manganèse, le calcium, le cuivre, et le zinc. Et donc, vous avez une compétition entre tous ces micronutriments. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit de prendre le zinc à jeun ou en dehors des repas.
Mmh.
Le problème, c'est que beaucoup de gens aussi vont avoir des troubles de l'estomac, des nausées, potentiellement du reflux, avec le zinc qui peut être irritant pour certains lorsqu'il est pris en dehors des repas.
Mmh.
Donc, on a beaucoup de mal pour certaines personnes à absorber correctement le zinc. Donc, c'est des supplémentations qui peuvent prendre du temps. Et c'est des supplémentations qui nécessitent de monter au-delà des apports journaliers recommandés, qui sont à 10 mg seulement et 15 mg pour la femme enceinte, alors qu'il faut au minimum, et là c'est des études mais aussi la pratique, au minimum entre 30 et 40 mg, voire 45 mg de zinc par jour pour l'absorber. Et même aux États-Unis, dans des études, on le voit, et même beaucoup de thérapeutes donnent plutôt entre 50 et 100 mg de zinc par jour. Donc on est très loin de ce qu'on fait, nous. Le seul effet négatif escompté quand on surdose le zinc, ça va être le fait de ne pas faire baisser l'absorption du cuivre. parce que le zinc entre en compétition énormément avec le cuivre, et quand on apporte beaucoup de zinc, on va limiter l'absorption du cuivre au niveau de l'intestin, mais au niveau cellulaire également. Donc on fait attention, quand on va au-delà de 45 mg, on fait des bilans réguliers du zinc et du cuivre. Mmh. Et bon, après, le zinc, ça reste un métal lourd, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi. Moi, je déconseille d'aller au-delà de 40 mg, 45, si on n'est pas accompagné, si on ne fait pas des bilans réguliers. Voilà.
Okay. Et l'iode ?
Et l'iode. Alors,
ça fait partie de l'étude aussi ?
Alors, l'iode, il y avait tous les micronutriments. Mais l'iode, alors, l'iode c'est un gros, gros sujet avec beaucoup, beaucoup de nuances à apporter. On pourrait faire un petit réel ou un article. Moi, j'ai fait des articles sur l'iode et j'ai beaucoup aimé les travaux du docteur Vincent Reliquier, le docteur Braunstein aux États-Unis. Il y a le docteur Abraham. C'est des médecins, des chercheurs qui ont montré en fait que l'iode a très haute dose, quand je dis très haute dose, on est entre 100 et 500 fois les apports journaliers recommandés, alors qu'en France, dans les pays occidentaux, on diabolise énormément l'iode. On déconseille l'iode pour la femme enceinte, par exemple.
Et pourtant, c'est dans le sel. Et pourtant, c'est rajouté dans le sel, non ?
On peut y venir, j'y viendrai, je vais y venir. Mais donc, on diabolise l'iode, et d'un autre côté, on a des médecins, des recherches qui nous montrent qu'à très haute dose, on a des effets hyper intéressant sur les pathologies thyroïdiennes, alors qu'on les déconseille dans les pathologies thyroïdiennes en Occident, que ce soit les hypothyroïdies, mais également les hyperthyroïdies, les nodules, les goitres. Mais l'iode à haute dose va aussi agir sur les fibromes utérins, sur les kystes, sur les adénofibromes mammaires, sur la prévention des cancers du sein. Donc il y a un champ de la recherche qui a été complètement éludé concernant l'iode. Mais ça demande de creuser le sujet, parce que je ne vais pas dire aux gens de se supplémenter à haute dose sans qu'ils aient eux-mêmes déjà... Bon, faites-vous suivre, mais ensuite, renseignez-vous énormément sur le sujet. Lisez notamment les travaux dont des médecins, des chercheurs dont je viens de vous parler. Et après, voilà, faites-vous accompagner lorsque vous utilisez de l'iode à haute dose. Mais déjà, au minimum, apportez... Le minimum, ce serait 250-300 microgrammes par jour. Et 300 microgrammes par jour, c'est déjà deux fois les apports journaliers recommandés.
Donc, en fait, on pourrait avoir ça déjà dans des multivitamines, avec le zinc, avec...
On n'a que 150 microgrammes en général dans les, dans les multivitamines par rapport à l'iode à cause de législation. On ne peut pas mettre beaucoup plus parce que sinon, le produit ne peut pas sortir. Hein. Vous avez la même chose en Allemagne. En France, c'est plus strict. Donc, on est limité par la législation pour mettre ça dans des multivitamines. C'est pour ça que le multivitamine, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour beaucoup de gens et pour beaucoup de micronutriments. Et donc, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, il faut faire des analyses. Et après, il faut... peut-être avoir sa base, son multivitamine, et puis à côté, autour, rajouter plein de micronutriments selon ses besoins.
Qu'on a mentionné. Et du coup, là, on parle des besoins un peu plus spécifiques. Donc, ce serait le deuxième niveau de la pyramide de ce que mon collègue m'a dit. Du coup, c'est souvent les sportifs qui ont besoin de choses différentes. Là, on a même parlé du fer, où il faut faire des analyses pour savoir si on doit aussi se supplémenter en fer. Tu parlais même sommeil et stress. Par exemple, c'est des besoins que certaines personnes ont aussi. À quoi tu penses d'autre ?
Les pathologies. En fait, c'est vrai que les sportifs... D'ailleurs, c'est à partir des sportifs qu'on est venu à la micronutrition, c'est-à-dire l'optimisation. On a commencé à s'intéresser à tout ce qui pouvait améliorer les performances. Et on s'est intéressé donc aux micronutriments, aux vitamines, à tout ce qui était légal. Bon, même si on s'est aussi intéressé au dopage pendant la guerre froide notamment, beaucoup en Russie et aux États-Unis. Et c'est eux qui ont fait toute la littérature scientifique autour de la micronutrition. Parce qu'à l'époque, l'objectif, c'était d'améliorer les performances. Et donc, il y avait les moyens qui étaient mis en œuvre. Aujourd'hui, bon, on parle de prévention santé, tout le monde s'en fiche. Il y a zéro moyen, donc il n'y a plus beaucoup d'études qui sortent. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de micronutriments qui tombent dans l'oubli. Ou des micronutriments où la balance... parce qu'il y a toujours des risques, il y a toujours des contre-indications et des effets secondaires chez certaines personnes dans des cas très spécifiques. Mais c'est comme, j'ai envie de dire n'importe quoi, il y a des gens qui meurent parce qu'ils boivent trop de café. Et, sauf que on va médiatiser tout ça, on va en faire des caisses. Je pense notamment au Garcinia Cambogia qui a été arrêté en France, qui est encore autorisé en Allemagne, parce qu'il y a eu dans le monde sur 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus, l'équivalent de 30 effets secondaires plus ou moins graves dans le monde. On parle d'un complément alimentaire sur 7 milliards d'individus, qui est en plus un complément qui est utilisé dans la perte de poids. Donc, on imagine qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui vont surdoser, et il y a toujours des interactions avec des médicaments. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Mais les sportifs ont fait qu'on a mis plus d'argent. Et aujourd'hui, étant donné que bah, y a pas d'argent dans la prévention, personne s'y intéresse. Et donc, d'ailleurs, c'est personnellement grâce au sport que je me suis intéressé à la micronutrition. Parce que quand on regarde un petit peu aujourd'hui, tout le monde prend des compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, si on parle de la France, qui est-ce qui les prenait en premier? C'était les bodybuilders, c'était les gens de la salle, les gym bros, qui prenaient des protéines, qui prenaient des BCA, qui prenaient du zinc avec du magnésium,
le ZRA. Qui regardent leurs assiettes aussi.
Ouais, qui regardaient leurs assiettes, qui faisaient attention à leur micronutrition et leur macronutrition, tout à fait, parce que leur objectif, c'était d'être sec, plus dessiné, plus performant. Donc, un objectif très pragmatique. Donc, ils se supplémentaient. Et à l'époque, les premières marques de compléments alimentaires, j'imagine que c'est... Enfin, ce que j'ai connu, et j'imagine que c'était vraiment ça, c'était que des marques de compléments alimentaires pour le sportif. On va pas les citer, mais il y en a qui sont encore très connus aujourd'hui et qui sont arrivés sur le marché il y a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, en France, en tout cas, c'est à travers le prisme du sport et de la performance qu'on a connu la micronutrition. Et aujourd'hui, certains compléments alimentaires qui ont été diabolisés, qui ont été utilisés uniquement pour le sportif, comme la créatine, aujourd'hui, il y a des femmes de 50 ans, 60 ans qui prennent de la créatine parce qu'on voit que c'est, enfin, on le savait déjà depuis longtemps, mais c'est efficace pour la cognition, pour la neurotransmission, enfin, pas pour la neurotransmission, je dis une bêtise, mais c'est important pour le cerveau. Et donc, la créatine, aujourd'hui, elle est maintenant, elle est propagée pour tout le monde, alors qu'avant, on pensait même que c'était un produit dopant. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, si tu vas leur demander « tu penses quoi de la créatine ?», ils vont te dire que c'est un produit qui est utilisé pour les bodybuilders pour se doper. Donc, mais par contre, j'ai quand même perdu le fil de la question de base.
Oui, la question de base. Du coup, on était toujours sur le deuxième niveau de supplémentation, où du coup, on va pouvoir aller chercher des choses quand on fait beaucoup de sport, on va pouvoir aller chercher des choses quand on a des problématiques spécifiques comme des carences en fer, et tu m'as dit des pathologies.
Des pathologies, oui. Mais donc, ce n'est pas que les sportifs qui ont des besoins augmentés. Il y a certaines pathologies, dans les maladies, par exemple, le métabolisme énergétique fonctionne moins bien, on a une inflammation qui nécessite de faire fonctionner en excès le système immunitaire, ce qui va surcompenser tout un tas de micronutriments, et là, on a des besoins qui sont beaucoup plus augmentés et qui justifient des supplémentations bien au-delà des multivitamines, bien au-delà des apports journaliers recommandés. Et là, on va aller chercher des micronutriments clés en fonction de la problématique. On peut donner des exemples. On a tous les micronutriments qui améliorent la sensibilité à l'insuline, pour les personnes qui font de la résistance à l'insuline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pré-diabète, voilà, en simple. Et donc, on a plein de micronutriments, que ce soit le chrome, que ce soit la berbérine, que ce soit l'acide alpha-lipoïque, il y en a plein d'autres qui améliorent la sensibilité à l'insuline et qu'on va pouvoir donner avec des doses spécifiques qui sont validées scientifiquement pour améliorer le profil glycémique. On a aussi la même chose pour le profil lipidique. On a plein de choses pour la cognition, pour la mémoire. On a des choses qui permettent de réguler les hormones dans un sens ou dans un autre. Et quand je dis les hormones, il y en a plein. Donc... Et puis après, il faut aussi savoir que chaque micronutriment n'a pas une fonction isolée, contrairement à un médicament. Et d'ailleurs, même un médicament n'a jamais une seule fonction. Et c'est pour ça qu'on met la liste des effets secondaires. Mais en fait, la liste des effets secondaires, c'est juste les autres effets du médicament. Et donc, les vitamines, les oligo-éléments, ils ont plein d'effets. Ils ont des effets systémiques qui sont, quand c'est bien fait, bénéfiques à plein de niveaux. Vous prenez de la vitamine B3, vous allez agir positivement sur votre profil lipidique, vous allez aussi agir sur votre cerveau, sur votre humeur, vous pouvez aussi agir sur votre sommeil, vous allez agir sur la production d'énergie.
Mais du coup, pour ce niveau-là, il faut vraiment être accompagné pour pouvoir creuser un peu plus dans ses besoins et ses objectifs.
Alors, moi, je suis revenu un petit peu sur ce que je pensais au début, c'est-à-dire que je pensais que tout le monde avait besoin d'être suivi par un naturopathe, par un thérapeute, par un micronutritionniste, peu importe. Ça, c'est le must. Mais aujourd'hui, on le voit, on a besoin de s'autonomiser. On le voit pourquoi ? Parce que tout est fait, en tout cas en France, je parlais de ce que je connais, tout est fait pour interdire, pour faire rentrer le citoyen dans une ligne bien tracée, avec le moins d'écart possible. Donc, que ce soit pour la santé ou l'éducation ou plein d'autres choses, les gens vont devoir absolument prendre leurs responsabilités, apprendre, se former eux-mêmes et ne plus dépendre d'un tiers extérieur et prendre leurs responsabilités. On ne va pas aborder des sujets qui fâchent. On en a peut-être un peu parlé. Et puis moi, quand je commence à faire une parabole, c'est une parabole qui peut durer une heure. Donc, mais on l'a vu pendant les dernières années, les gens, parce qu'ils n'avaient aucune connaissance, ont accepté un narratif et sont allés, je n'ai pas envie de dire à l'abattoir, mais presque. tu vois, se faire injecter. Bon, désolé pour les personnes qui auraient une sensibilité au travers de ça, mais voilà, je parle sans filtre. De toute façon, tu l'as dit au début,
oui.
C'est William sans filtre. Mais bon, ça, c'est, pour moi, c'est même pas une...
De toute manière, on en a parlé un peu plus dans notre dernière vidéo, où tu... même, par exemple, pour la nutrition à l'école, ce genre de choses, ouais. Où il fallait responsabiliser les parents, il fallait qu'on se prenne en main nous-mêmes.
C'est ça, en fait. Mais moi, je l'ai été à un moment donné de ma vie. On passe tous par cette phase-là où il y a le réveil. Et le réveil, c'est de se dire « Ah, en fait, l'État ne va pas me prendre par la main, ne va pas m'expliquer les choses, ne va pas prendre soin de ma santé, ne va pas m'aider à me cultiver au niveau de mes finances, au niveau de tout ça. C'est à nous de prendre nos responsabilités, c'est à nous de nous former et arrêtons de dépendre. » Et bien sûr, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes qui sont malades. Ces personnes-là, évidemment, il faut les accompagner. Elles ont besoin de quelque chose de plus structuré. Mais pour toutes les autres personnes, formez-vous, prenez du temps. Et la santé, c'est un des piliers de votre vie. Une personne qui n'est pas en bonne santé, c'est une personne qui ne peut rien faire. Donc, il faut être très pragmatique et mettre la santé à la base de la pyramide. Et ensuite, peut-être investir plus de temps dans des loisirs, autre chose, peut-être sa vie professionnelle même. Parce que la santé, si on n'a pas la santé, on n'a pas la vie professionnelle qui va avec. Donc, c'est indispensable que les gens se forment. C'est pour ça qu'on fait Instagram, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour ça qu'on incite les gens à prendre soin de leur santé. Et c'est pas juste dans le prisme de promouvoir une marque, de promouvoir Sunday Natural. C'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs, c'est ça ce que j'aime avec vous, c'est que... vous faites beaucoup plus que juste des produits. Et donc, c'est un peu le message que j'aimerais transmettre, vraiment, c'est formez-vous, devenez autonome. Du moins, essayez d'avoir des basiques pour ne pas tomber dans certains pièges et essayer de réguler à minima votre santé. Et puis après, vous allez chercher de l'information spécifique auprès de thérapeutes qui passent toute leur journée à faire ça parce que, voilà, c'est leur métier. Mais... tout le monde comprend de quoi on est en train de parler. Et il y a des gens qui vont prendre là 1h30, peut-être 2h, je ne sais pas de combien de temps va durer le podcast, pour écouter ça. Donc c'est ça, déjà, c'est se former. Donc bravo si vous êtes arrivé jusqu'à là.
On continue et on va passer maintenant aux carences les plus courantes. On en a déjà cité plusieurs. J'aimerais commencer par la vitamine D. Je prends les études. Selon l'étude ENNS 2006-2007 de Santé publique France, 80% des adultes présenteraient une insuffisance en vitamine D, 42,5% souffriraient d'un déficit modéré à sévère, tandis que seulement 4,8% auraient un déficit sévère. Il y en a encore d'autres, des études, il y a l'ANSES aussi qui dit 70% des adultes présenteraient une insuffisance d'apport en vitamine D, bref. C'est presque 4 Français sur 5 qui n'auraient pas assez de vitamine D. Donc, c'est énorme, déjà.
C'est même pire, parce qu'en fait, là, les études que tu cites, c'est des études qui se basent uniquement sur les valeurs laboratoires. C'est-à-dire qu'on te dit qu'une personne est en déficit léger lorsqu'elle est entre 20 et 30, enfin, entre 25 et 30 ou 20 et 30 nanogrammes par millilitre. Mais en fait, quand elle est déjà en dessous de 45, elle n'est pas du tout dans les valeurs optimales. Donc, en fait, on a beaucoup plus que 4 personnes sur 5. On a peut-être 90%, 95% en fait, des Français, peut-être 99% qui n'atteignent pas des valeurs entre 45 et 80 nanogrammes par millilitre, qui est à peu près la fourchette de valeurs optimales pour être en bonne santé, pas juste pour éviter de l'ostéoporose. Donc, t'imagines qu'une personne qui est en dessous de 30, qui est juste à la limite, qui est juste à 30, elle a juste les effets positifs de la vitamine D basique, par exemple, sur la santé osseuse. Mais elle n'a pas les effets de la vitamine D sur son système hormonal, sur son immunité. On sait aujourd'hui que les personnes qui ont des taux de vitamine D optimaux tombent moins malades, font moins d'infections, vont moins en réanimation lorsqu'elles ont une infection. Et on n'a pas du tout les valeurs optimales pour avoir de la prévention primaire sur les cancers. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ce que tu cites. Donc ouais, c'est affolant, sachant que c'est très facile la vitamine D, c'est quelques gouttes par jour, ça coûte rien, ça devrait faire partie des manuels scolaires.
Mais c'est même automatique, on la connaît par exemple en supplémentation pour les nourrissons. Pourquoi on ne supplémente plus après, après que les enfants aient grandi?
Tu poses une très bonne question.
Bah, on le connaît comme ça, c'est comme ça que...
Tu poses une très bonne question. Regarde, pourquoi les adultes prennent des compléments alimentaires mais n'en donnent pas à leurs enfants? Pareil.
Dans le sens inverse, ouais.
Ouais, mais c'est pareil, dans le sens inverse, exactement. Les parents qui ont des carences en iode, les enfants mangent la même chose que les parents, voire moins bien généralement. Moi, je le vois avec mes filles, elles sont plus difficiles pour manger tel ou tel aliment. Je sais que potentiellement, elles ont encore plus de déficiences que je pourrais en avoir, même avec une alimentation qui serait à peu près optimale. Les parents qui supplémentent, pensez aussi à vos enfants. Ils ont besoin de vitamine D, ils ont besoin de magnésium, ils ont besoin d'autres choses. Il faut comprendre qu'en 2025, on ne peut plus vivre de la même manière que dans les années 80 et encore, peut-être que c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, c'est bien pire avec l'agriculture intensive, la monoculture, et puis nos habitudes de vie qui ont énormément changé, et puis nos habitudes alimentaires qui ont énormément changé. Sans rentrer dans le débat vegan, carnivore ou quoi que ce soit, qui est complètement stérile selon moi, on ne mange plus assez de produits carnés. Pour beaucoup de gens ne mangent plus de produits, enfin, je parle des abats surtout. Je parle du foie, personne ne mange de la cervelle. Personne mange des viscères, personne mange des reins, des rognons, tu vois. Pourtant, c'était des choses qui étaient, il y a encore peut-être 40, 50 ans, normales dans la majorité des familles.
On était sur la vitamine D et même, je pense, la vitamine D, elle est encore remboursée par la sécurité sociale. Il faut que les médecins puissent la prescrire
quand
même.
Elle est remboursée. Elle est plus remboursée en France depuis, je crois, 3 ou 4 ans.
Certaines pathologies,
elle peut. C'est que dans certaines pathologies, exactement.
J'ai cru comprendre aussi que la vitamine D, elle était remboursée dans certaines pathologies. Du coup, il faudrait voir avec son médecin. Et ce serait quoi les conditions pour qu'elle soit remboursée et qu'est-ce qu'on donne quand elle est remboursée?
Alors, en médecine allopathique, elle va être remboursée uniquement dans certaines conditions, donc dans certaines pathologies. Le médecin... En général, sauf les certains médecins qui s'intéressent de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et grâce à leurs patients qui viennent leur transmettre des informations, et les médecins curieux, les médecins les plus curieux commencent à s'actualiser, ça va être la prescription d'UV-dose, c'est-à-dire des ampoules de vitamine D à prendre tous les mois en général, uniquement en hiver la majorité du temps. Donc on apporte des grosses doses de vitamine D en one shot avec des doses que le corps ne va pas totalement métaboliser et qui vont monter très rapidement dans le sang et vont chuter aussi rapidement qu'ils sont montés. Et donc, ça ne permet pas d'obtenir des taux de vitamine D optimaux de manière prolongée. La seule manière de se supplémenter de manière optimale, c'est de l'apporter de manière journalière ou en tout cas, hebdomadaire éventuellement, mais régulièrement, quoi.
C'est parce qu'on ne peut pas stocker ?
On peut la stocker, la vitamine D. Mais quand on apporte un apport massif de vitamine D, le corps ne peut pas tout transformer, ne peut pas tout stocker d'un coup et ne peut pas activer la vitamine D. Donc, ça, ce n'est pas utile.
Pourquoi on donne des grosses doses alors qu'on pourrait le faire en
Parce qu'il n'y a pas de formation en micronutrition et parce que c'est des consensus scientifiques. Il y a tout un tas il y a les intérêts économiques, il y a la praticité, il y a plein de choses comme ça qui font que à l'échelle d'une population, on donne des recommandations basiques, minimales pour limiter par exemple le risque de certaines grosses pathologies, mais il n'y a pas d'actualisation, il n'y a pas de prévention. C'est pour ça, n'attendez pas de l'État qui vous prenne par la main, n'attendez pas et j'ai rien contre les médecins allopathes, hein, c'est pas ça, mais qui vous donne des conseils de prévention, il n'a pas le temps, c'est pas son métier. Lui, il l'a pour la pathologie, pour l'urgence, pour vous donner quelque chose pour traiter un symptôme et pas pour régler votre... pas pour faire votre prévention. Il ne faut pas les blâmer, c'est juste pas leur rôle, en fait. Sinon, vous allez voir des médecins qui prennent plus de temps. Donc aujourd'hui, on appelle ça des médecins fonctionnels. On pourrait appeler ça des médecins de famille traditionnels qui avaient plus de temps. Mais c'est un peu la même chose. Ils vont creuser l'origine de la problématique. Ils vont faire aussi de la naturopathie. Ou nous, les naturopathes, on va faire de la médecine traditionnelle. J'en sais rien, on appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle ça la santé intégrative, la santé préventive. J'aime pas les étiquettes, tu vois, naturopathe, micronutritionniste, médecin fonctionnel, tout ça. Alors bien sûr, le titre, il y a les titres qui sont protégés, évidemment, je trouve que ça enferme les gens dans des cases et ça nous empêche de penser out of the box, tu vois.
On parlait des pathologies et des symptômes et du coup, comment on reconnaît, avec des symptômes peut-être, qu'on est carencé en vitamine D?
Alors, les symptômes de la carence en vitamine D, la carence sévère, là, ça va être des symptômes très visibles, très marqués. Ça peut être une fatigue extrême, ça peut être des étourdissements, ça peut être des fractures à répétition, etc. Mais vous avez ensuite une zone grise où c'est difficile de mettre en évidence des symptômes. Pourquoi ? Parce que ces symptômes-là, ils ne sont pas spécifiques. Ça va être une diminution de l'immunité, ça va être de la fatigue, ça va être une perte de cheveux également. Mais vous pouvez avoir ces mêmes symptômes dans plein d'autres conditions différentes, avec plein d'autres carences. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser uniquement à un micronutriment, il faut penser large, il faut ratisser large. Et quand vous allez faire un bilan sanguin avec votre médecin et que vous essayez de creuser un petit peu pour avoir des éléments de prévention, lui, il va faire éventuellement juste la vitamine D et juste la ferritine. Mmh. Ok, mais pourquoi pas le zinc, le cuivre, le sélénium, la vitamine B12, la vitamine B9, les autres vitamines, enfin, tu vois, tout est important. Tout est important. Simplement, il y a des choses qui sont un peu plus dans la... dans le circuit classique, tu vois, dans les protocoles.
Et comment, après, on choisit son dosage ? Justement, si on sait qu'on ne sort pas beaucoup, si on sait qu'on a besoin de la crème solaire énormément...
Par rapport à la vitamine D, tu vois ?
Ouais, par rapport à la vitamine D.
Alors, il y a des calculs assez simples à retenir. On va en donner un, mais on peut considérer qu'il faudrait à peu près 75 UI, unité internationale, qu'on va multiplier par son poids de corps. Donc, par exemple, une femme qui fait 70 kilos, on va faire 70 fois 75 et on va obtenir une valeur qui va être optimale pour remonter une carence. On peut même monter jusqu'à 100 UI par kilo. Donc, on peut faire 70 fois 100. Si elle est carencée, on va obtenir donc 7000 et on va donner 7000 UI par jour. Mais on va rester dans une limite maximale qui correspond à peu près à la synthèse en moyenne maximale de ce que le corps peut faire au quotidien si on s'exposait au soleil, ce qui correspond à 10 000 unités internationales UI par jour. Donc, le maximum, sauf dans certains cas à ne pas dépasser, ça va être 10 000 UI. Mmh. On peut utiliser plus, par exemple, quand on est très carencé, on va faire des doses de charge sur quelques semaines, c'est-à-dire qu'on va utiliser peut-être 15, 20 000 sur une ou deux semaines, histoire de remonter rapidement avant de restabiliser plus bas. Mais voilà, pour être sécuritaire, dites-vous 10 000 UI par jour maximum. Quand je dis sécuritaire, on est très sécuritaire parce que dans les études, les cas d'intoxication, les cas de surdosage, on est sur, pour les adultes, on est sur des cas où on va avoir des doses de 400 000 UI, des UV doses très très dosées, prises quotidiennement sur des périodes importantes. Donc là aussi, le profil de sécurité est quand même très important. Donc on va apporter 75 à 100 UI par kilo dans une limite de 10 000 par jour. À prendre lors d'un repas avec des matières grasses, parce que c'est une vitamine liposoluble.
Voilà. J'ai bien appris.
Très bien. Et de toute façon, avec toutes les vidéos que tu fais, tous les sujets que tu creuses, maintenant, je pense que tu maîtrises pas mal de choses. Et on va combiner la vitamine D. Quand on se supplémente au-delà de 2000 UI, c'est mieux d'apporter de la vitamine K2. Mmh. La vitamine K2, c'est une vitamine qui va permettre à la vitamine D de métaboliser le calcium au bon endroit, c'est-à-dire d'aller fixer le calcium au niveau des os pour éviter qu'il y ait des dépôts de calcium au niveau des tissus vasculaires, au niveau des artères. Parce que quand il y a un excès de vitamine D, on va mettre en circulation beaucoup de calcium. Et ce calcium, s'il n'est pas orienté, c'est comme de la signalisation, tu vois. S'il n'y a pas...
C'est le bazar.
C'est le bazar. Et il risque de s'accumuler au niveau des vaisseaux sanguins.
Et les enfants ?
Alors, pour les enfants, on va donner un peu plus. On va donner 100 UI par kilo.
Ah oui.
Oui, on va donner 100 UI, mais ils sont plus légers, hein, donc évidemment la dose est plus basse. On va donner 100 UI par kilo. On ne va pas piquer les enfants tout le temps pour faire une prise de sang. Donc on va être à peu près, hein, ça dépend du poids de l'enfant, mais on va être à peu près entre 500 et 1000, 1500 unités internationales par jour. Et après, la vitamine K2, si vous mangez beaucoup d'aliments fermentés, si vous mangez du tofu, si vous mangez des épinards, etc., vous avez de la vitamine K2 régulièrement. Simplement, voilà, c'est une petite précaution. Et puis maintenant, beaucoup de marques, la majorité des marques, font de la vitamine D combinée avec la vitamine K2.
On parlait des cofacteurs, du coup, avec la vitamine K2. Quand on a fait le petit guide sur Instagram que vous pouvez retrouver aussi, on parlait aussi du magnésium.
Ouais.
Le magnésium, c'était aussi un cofacteur de la vitamine D ?
En fait, le magnésium, il va être utilisé, comme on l'a dit, pour plein de réactions chimiques. Et la vitamine D, elle a besoin d'être transformée. J'utilise des termes simples. Transformée au niveau du foie, au niveau des reins. Et pour la transformer en forme active, pour que le corps puisse l'utiliser. Parce que la vitamine D qu'on prend en goutte, le cholécalciférol, sauf si vous avez une ordonnance de votre médecin qui vous a donné une vitamine D déjà sous forme active qui s'appelle le calcitriol, eh bien, vous avez une forme qui est inactive dans le cholécalciférol. Ce que vous prenez, par exemple, quand vous achetez votre vitamine D chez Sunday, c'est normal. L'autre est sur ordonnance, quoi qu'il arrive, et on ne va pas l'utiliser n'importe comment. Donc, le corps, ensuite, va la stocker, mais il va ensuite l'activer au jour le jour en fonction des besoins. Et pour l'activation, vous avez besoin de réactions chimiques, de cofacteurs, et le magnésium est très important pour ça. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas manquer de magnésium, parce que premièrement, vous risquez de ne pas bien activer la vitamine D, et ensuite, surtout, vous allez surutiliser le peu de magnésium que vous avez, et vous risquez d'avoir des symptômes de manque de magnésium lorsque vous prendrez de la vitamine D à haute dose. C'est ce qui se passe chez certaines personnes qui me disent, bah voilà, j'ai pris de la vitamine D, j'ai la paupière qui tremble, et j'ai des crampes. Je me sens fatigué. Mmh. Je me sens plus fatigué qu'avant. Je suis plus stressé. Je dors moins bien. Alors que ce n'est pas du tout les effets escomptés. Parce qu'il y a une carence en magnésium latente. Et c'est pour ça qu'en début de podcast, je disais qu'il faut apporter quand même du magnésium pour d'autres choses.
Bah justement, on est tout aussi mal logé en carence au niveau du magnésium. Étude Suivi Max dont tu parlais tout à l'heure. 72% des hommes, 77% des femmes consomment moins que les apports recommandés. Ça fait 380 mg par jour pour les hommes. 300 mg par jour pour les femmes selon l'ANSES, alors qu'on croit en fait que c'est facile de consommer du magnésium par alimentation.
Alors en théorie, ça pourrait l'être, mais comme on l'a vu, les besoins sont très augmentés. Le magnésium, vous allez en trouver dans les noix de cajou, par exemple, vous en trouvez beaucoup, dans les graines, vous en trouvez dans les végétaux, vous en trouvez dans les légumes verts, etc. Vous en trouvez aussi un peu dans les fruits. Donc le magnésium, avec une alimentation vraiment optimale, c'est possible. Le seul truc, c'est, comme on l'a vu, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de facteurs qui font que le magnésium est surutilisé par l'organisme. Et pour le coup, la prise de sang du magnésium, je trouve pas que ce soit hyper pertinent, parce que entre le coût de la prise de sang et la supplémentation en magnésium, qui quoi qu'il arrive vous fera du bien et n'aura pas d'effet secondaire, et en cas de surdosage éventuellement sera éliminé par les reins facilement, ou vous provoquera une diarrhée, mais si vous prenez les bonnes formes de magnésium, il n'y a pas de raison, sauf que si vous avez vraiment les intestins très sensibles. Donc autant économiser le prix de l'analyse et vous supplémenter directement.
On a vu sur Instagram, on a voulu donner un peu les différentes formes de magnésium qu'on republiera quand même au bon format pour que vous puissiez le retrouver après ce podcast. Comment on fait pour choisir sa forme de magnésium vraiment très simplement, parce qu'il y en a tellement. Peut-être juste donner les meilleures formes de magnésium que tu recommanderais toi directement.
Ok, alors le magnésium, il peut être absorbé grâce à différents... transporteur. Imaginez que c'est comme un véhicule qui va permettre au magnésium, le magnésium élément, la molécule, d'être absorbé. Et selon le véhicule, vous avez plus ou moins de chances qu'il soit bien absorbé. Et ensuite, le véhicule en question, eh bien, ça a souvent un acide aminé, il a aussi un effet propre sur l'organisme. Donc, en fonction du véhicule, bisglycinate, malate, citrate, orodate, ascorbate, lysinate, glycérophosphate, taurate, tréonate, hein, le tréonate qui agit, qui permet une meilleure, un meilleur qui est une des seules formes qui permet au magnésium de traverser la membrane du cerveau, la membrane hémato-encéphalique. Vous avez donc les transporteurs qui ont un effet propre et vous avez le magnésium. Le magnésium, c'est le même. C'est la quantité après qui va définir surtout son effet. Pour les transporteurs, globalement, il existe des différences. Prenez déjà un magnésium qui est bien absorbé. Les magnésiums qui sont bien absorbés, on a le bisglycinate, on a le citrate, mais qui peut être un peu laxatif, mais il est quand même bien absorbé. On a le tréonate, qui est très bien absorbé. On a le taurate, on a le glycérophosphate, on a le malate. Voilà, il y a encore le lactate, le gluconate, il y en a encore d'autres qui sont un peu moins utilisés, moins connus, mais globalement... À moins de prendre de l'oxyde ou du chlorure, vous allez avoir des formes de magnésium qui sont plutôt bien absorbées, voire très bien absorbées par tout le monde. Le plus simple, ça va être le bisglycinate, parce que bon, bah, c'est celui qu'on trouve partout. C'est celui qui aussi agit sur le sommeil, parce que la glycine va avoir un effet inducteur au niveau du sommeil. Donc, beaucoup de gens le prennent avant de dormir, c'est aussi mon cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être sédatif pour tout le monde en le prenant la journée, sauf si des gens sont très sensibles à la glycine. Mais en général, voilà, ça peut être pris matin, midi, soir.
Ouais, donc on
s'en fiche un peu. Voilà. Mais si vous voulez un effet spécifique pour le sommeil, peut-être juste avant de dormir, 30 minutes avant de dormir, ça peut être sympa. Voilà, donc globalement, le bisglycinate est très bien. Après, vous avez le citrate pour les personnes qui sont un peu constipées. Donc ça, c'est super. Et puis, vous avez le malate, voilà. Le tréonate, okay. Intéressant aussi.
En tout cas, c'est très clair pour moi. On peut passer maintenant aux oméga-3, parce que je voulais passer sur les oméga-3. Il y a beaucoup de personnes que j'ai reçues ici sur Healthwise qui recommandent une supplémentation en oméga-3. On parlait beaucoup des déséquilibres entre les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9, mais la difficulté du coup de s'alimenter en petits poissons gras par rapport aux métaux lourds, par rapport à des questions éthiques, mais que c'était recommandé quand même dans tout ce qui est inflammation, santé cardiovasculaire, cerveau, mémoire, humeur, même dans l'épisode avec Hélène Thierry sur l'endométriose. Pourquoi on devrait encore se supplémenter en oméga-3 si on peut le trouver dans l'alimentation?
Alors, les oméga-3, il y en a trois globalement. Il y a l'ALA, acide alpha-linoléique, il y a l'EPA, éicosympathaénoïque, et il y a le DHA, le docosahexaénoïque. Donc, on a l'ALA qui va être un précurseur des deux autres, mais qui est très, très, très mal converti, entre 1 et 5% et des personnes qui le convertissent à moins d'1%. Donc, si vous voulez les effets des oméga-3 qu'on retrouve dans les études, il faut savoir que les oméga-3 EPA, DHA, c'est parmi les micronutriments qui sont les plus étudiés et dont il y a un consensus extrêmement clair au travers de plein de méta-analyses. Donc, voilà, pour le coup, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas critiquer en micronutrition quand on est très sceptique, quand on est... formaté, désolé pour le terme, à la médecine allopathique pure et dure et qu'on veut surtout pas entendre parler du reste, de la micronutrition, etc., et qu'on considère que c'est du charlatanisme, on peut pas dire ça pour les oméga-3 et pour d'autres produits qui sont très, très étudiés. Je dis ça parce que dans la micronutrition, il y a des nutriments qui n'ont pas eu... qui n'ont pas été assez étudiés. Il n'y a pas assez d'études dessus. Et parce qu'il n'y a pas assez d'études, mais il y a beaucoup de traditions derrière, il y a des millénaires d'utilisation, on va considérer que, niette, ça n'existe pas, on ne veut pas en entendre parler, ça ne marche pas, c'est du charlatanisme. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, concernant les oméga-3, vous avez l'EPA et le DHA, c'est vraiment ces deux-là qu'on veut obtenir pour les effets, comme tu l'as dit, inflammation, mémoire, santé hormonale, il y en a plein des effets, que ce soit l'hydratation de la peau, les effets sur... l'inflammation, on l'a dit, sur l'immunité, sur la régulation des hormones sexuelles, par exemple, sur la fertilité, il y en a énormément. On va chercher ces deux oméga-3 qui se retrouvent quasi exclusivement dans la nature, dans les produits de la mer, dans les poissons gras et dans les algues. En fait, c'est les poissons qui mangent les algues. C'est d'abord les algues qui contiennent des oméga-3. Donc, les poissons mangent des algues et accumulent des oméga-3, les poissons gras, donc les poissons des mers froides. Parce que dans les mers froides, il faut que les graisses soient fluides. Et les oméga-3, c'est des graisses qu'on appelle polyinsaturées. Elles ont des insaturations qui permettent aux membranes cellulaires de se déformer plus facilement et donc de faire en sorte que les échanges se fassent mieux dans des eaux à 3 degrés, tu vois. Désolé, je m'égare un petit peu, mais je reviens au sujet. Donc, c'est surtout les poissons gras, les algues, mais aussi... quand les ruminants ont mangé en pâturage, la viande, le bœuf.
Ah oui.
Exactement. Parce que, en fait, ça dépend ce qu'ils mangent. Les oméga-3, on va les trouver l'ALA, l'acide alpha-linolénique, qui est convertissable chez les animaux, contrairement aux humains, qui va être converti en EPA-DHA. Eh bien, on va le retrouver dans les graines de lin, dans l'herbe, etc. Donc, les animaux qui ont vécu en pâturage et qui ont mangé ça ont des oméga-3, ce qui permet du coup de modifier le profil inflammatoire de la viande. On répète que la viande est inflammatoire. Eh bien, ça dépend de quelle viande on parle. Et vous avez ça également dans les œufs où les poules ont mangé des graines de lin. Donc, c'est notamment le label bleu blanc cœur. Après, vous avez aussi des fermiers qui n'ont pas le label, mais qui donnent des graines de lin à leurs poules qui vont donner des œufs avec beaucoup d'oméga-3 EPA. DHA. Donc voilà, c'est surtout ça au niveau de l'alimentation. Le problème, c'est qu'on n'en apporte pas suffisamment. Et quand on en apporte, on a la problématique, comme tu l'as dit, soit de la qualité de la viande, soit de la pollution, des métaux lourds, des océans qui sont extrêmement pollués. Donc on arrive à esquiver un petit peu en consommant des petits poissons gras. C'est vrai, on a beaucoup moins de pollution parce qu'ils accumulent moins de métaux lourds, ils vivent moins longtemps, ils sont en bas de la chaîne alimentaire. Mais il y en a quand même un petit peu. Et puis après, tu l'as dit aussi, il y a la question de l'éthique, il y a la question de la pêche, de la pêche sauvage, de la pêche raisonnée, etc. Et donc, il existe un petit cheat code, c'est de prendre des oméga-3 vegan, mais des oméga-3 vegan EPA, DHA. Mais ce qui peut exister uniquement lorsqu'on prend des oméga-3 à base d'algues, où on a des algues qui sont en quelque sorte entraînées à fabriquer beaucoup d'oméga-3. Il y en a une qui s'appelle Schizochytrium.
Tu sais bien.
Je me suis entraîné à prononcer celui-là. qui permet voilà, de condenser beaucoup d'oméga-3. Donc voilà pour la question des oméga 3. Donc maintenant, n'importe quel végétarien, végétalien peut consommer ces oméga 3 et compenser une des carences majeures du véganisme sans problème en restant dans le cadre éthique en quelque sorte qui s'est imposé.
Du coup, il faudrait manger combien de fois par semaine des petits poissons gras sans avoir besoin de se supplémenter ?
Entre 2 et 3 fois minimum. Après, il faut savoir, c'est que quand vous mangez des poissons gras, ils sont cuits. Et les oméga 3 sont des graisses polyinsaturées qui s'oxydent très facilement. Donc, vous avez une perte en oméga 3 qui est considérable. Donc, ce serait en théorie des petits poissons gras crus. C'est pour ça que la supplémentation, elle est presque incontournable chez beaucoup, si ce n'est tout le monde. Pour les œufs, tu as le jaune d'œuf qui contient les oméga 3 quand les poules sont nourries aux graines de lin. Mais là aussi, il ne faut pas faire cuire le jaune. Bah, c'est très bien, c'est ce qu'on conseille. Le blanc cuit et le jaune coulant à la coque, exactement.
Et ma deuxième question, c'est comment on sait si on a besoin de plus de DHA ou plus d'EPA ?
Eh bien, le profil des acides gras érythrocytaires.
Ah ouais.
Ouais. Et là, c'est une analyse qui coûte entre 60 et 80 euros si on la fait toute seule en dehors d'un pack.
Pourquoi on devrait la faire ?
Pour voir tout son profil. Alors, personnellement, ce n'est pas une analyse que je demande à faire parce que avec l'anamnèse alimentaire, on arrive déjà à sortir des grosses tendances. Et puis, c'est un bilan qui coûte cher. Et dans ce budget, si on veut, par exemple, allouer... Imaginons qu'on a 200 euros à allouer à des analyses biologiques. On se dit, OK, je mets 200 euros de budget annuel, ou allez, 300, un peu plus. Et si vous voulez faire un bilan plus complet, vous pouvez monter encore. Mais imaginons qu'on n'a que ce budget à allouer. Eh bien, on ne va pas mettre 80 euros juste pour observer, chose qui est très intéressante à observer, mais juste le profil des acides gras érythrocytaires. On va dispatcher ce budget avec d'autres grandes thématiques. Tu vois, peut-être un petit peu au niveau des hormones, quelques micronutriments, et puis on va compléter s'il nous reste ce budget avec les acides gras érythrocytaires. Donc voilà, c'est la seule raison.
C'est pas une priorité.
Selon moi, c'est pas une priorité parce que je m'adresse pas forcément à des personnes qui ont envie de mettre 3000 euros d'analyse. Tu vois. En médecine fonctionnelle, beaucoup de médecins préconisent des bilans à plus de 1000 euros. Mais du coup, c'est une patientèle qui est différente et qui peut se permettre de faire ça. C'est pas forcément tout le monde. Et après, et à la question du bénéfice-coût, c'est-à-dire que est-ce que tu obtiens beaucoup plus de bénéfices à savoir précisément le statut d'acide gras érythrocytaire plutôt qu'à te concentrer sur l'hygiène alimentaire de la personne et à te concentrer sur les autres parties du camembert dont on a parlé tout à l'heure qui sont peut-être plus suffisamment investiguées au profit de l'analyse au microscope de tous les dérèglements, tu vois.
Okay.
Et ça, c'est une petite critique, pas pour la médecine fonctionnelle, mais en règle générale, et je peux aussi me la faire à moi, c'est que des fois, on a tendance à zoomer un peu trop et à oublier en fait qu'on investit beaucoup de temps et d'énergie et d'argent dans des choses qui sont très spécifiques, alors que la personne, elle n'a pas réglé le reste. Tu vois ? Imagine que tu as envie de courir un marathon et que tu prends la tête toute une soirée à savoir quelle basket Nike tu vas acheter, quelle tenue, etc., alors que déjà, tu n'as même pas commencé l'entraînement. Tu vois ?
Ouais, non, c'est clair. On continue avec une des dernières carences les plus courantes. Moi, j'étais surprise que ce soit courant. C'est la carence en zinc, alors que sur les sites officiels, c'est apparemment plutôt rare. En tout cas, en Allemagne, on estime à... Pardon ?
Parce qu'ils parlent de carence et pas de déficit.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, ce que je disais, en Allemagne, on estime à près de 20% de la population qui a des apports insuffisants. Alors, est-ce qu'il faut se supplémenter en zinc, on a dit ? Plutôt oui.
Plutôt oui. Et il faut savoir que les chiffres que tu donnes, les études, c'est toujours par rapport à la carence. Il y a la carence qui donne la maladie et tu vas avoir les déficits. Et après, donc, là, tu as le déficit et après, tu as la zone optimale, vraiment. Donc, ça dépend où tu te places. Le médecin, lui, se place en termes de... pathologie. Quand on est naturopathe, on n'a pas envie que la personne tombe malade. On veut faire en sorte qu'elle, justement, elle maintienne une bonne santé et pour ça, on veut chercher à optimiser. Donc, c'est un autre niveau d'interprétation et c'est un autre degré de conseil, tu vois. Donc, voilà. Par rapport à la carence en zinc, il y a ça déjà, le champ de référence. On va pas utiliser le même par rapport aux valeurs optimales, valeurs de référence. Et ensuite, le zinc, on peut utiliser pour plein de choses au niveau thérapeutique sans être carencé, sans être même en déficit. Par exemple, que ce soit pour la peau, que ce soit pour le sommeil également, que ce soit pour l'humeur, l'immunité, bien évidemment, la cicatrisation. Le zinc, qui peut être combiné par exemple à un acide aminé qui s'appelle la carnosine et ça agit sur la cicatrisation de la muqueuse de l'estomac, sur la porosité de l'intestin, le zinc carnosine. Tu vois, donc il ne faut pas voir le micronutriment juste via le prisme de « est-ce que j'ai une carence ?»
Ah ouais.
Il y a la zone optimale. Et ensuite, il y a les effets thérapeutiques qu'on peut escompter avec une supplémentation spécifique.
En parlant de spécificité, là, tu as mentionné par exemple la cicatrisation, la peau. Il y a plein de déclins de production de certaines substances à partir de 30 ans, par exemple. Le collagène, le Q10, l'acide hyaluronique. Est-ce qu'il faut forcément pallier cette descente ou est-ce que c'est naturel et c'est normal?
Alors, il y a... Là aussi, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a les carences qui vont s'installer, qui ne sont pas liées à l'âge, qui sont peut-être liées au mode de vie. Et en fait, on va peut-être moins bien absorber certains micronutriments avec l'âge, etc. Donc, c'est important de les compenser. Et après, il y a les vitamines, les oligo-éléments, on en a toujours besoin tout au long de notre vie. Donc, si on ne les apporte plus ou si on a du mal à les absorber au fur et à mesure de notre vie, il faut continuer à les apporter. Et après, il y a les choses qui sont synthétisées dans le corps, que ce soit les hormones, tu as parlé du coenzyme Q10, tu as parlé du collagène, etc. Et là, il y a une question de mode de vie. Parce que, évidemment, il y a l'horloge biologique, mais il y a aussi le mode de vie qui va avoir un impact significatif sur la vitesse de dégénérescence de notre corps et donc de l'apparition de ces déséquilibres. Et une fois qu'on s'est intéressé à tout ça, il y a la question de l'optimisation et de ce qu'on appelle la médecine anti-âge. Moi, je préfère parler de longévité plutôt que de médecine anti-âge, parce qu'on ne recule pas au niveau de l'âge, mais on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et là, cette question-là, elle est personnel et je pense que c'est presque une démarche philosophique. Tu vois, par exemple, là, il y a la question des hormones, de l'optimisation hormonale à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, il y en a qui parlent même à partir de 40 ans. C'est une question qui a le mérite d'exister et c'est à chacun de s'y intéresser et de voir quel est en fait finalement le positionnement éthique et moral par rapport à tout ça. Il y en a qui vont te dire, ben en fait non, je pense que c'est pas normal de vivre jusqu'à 95 ans. Il y en a qui vont te dire, ben en fait on est censé vivre jusqu'à 120 ans. Le corps il est fait pour ça. C'est juste qu'on a une dégénérescence prématurée, donc faisons en sorte de l'optimiser. Il y en a qui expliquent aussi que l'espérance de vie a augmenter trop rapidement par rapport à la capacité de nos organes à suivre le rythme parce que au début du 20e siècle en France, l'espérance de vie c'était 47 ans. Aujourd'hui, en moyenne en France, on vit quand on est une femme à peu près 85-86 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un tout petit peu moins. Et c'est pas rare d'atteindre 90-95 ans, tu vois. Quand la personne est dans un bon environnement, c'est possible, tu vois. Mais il y en a qui te disent que, en moins d'un siècle, aujourd'hui, on a gagné 40 ans, 30 ans d'espérance de vie, et les ovaires, les testicules n'ont pas suivi le rythme. Et donc, c'est justifié de supplémenter au niveau des hormones. Là, je ne donne pas mon avis, c'est vraiment à chacun de se positionner, de s'y intéresser. Et après, il y a le confort de vie, il y a la pathologie. Les hormones, ce n'est pas juste le fait d'avoir une plus belle peau, des plus beaux cheveux, c'est aussi le fait de prévenir certaines maladies, le fait d'éviter que certaines maladies se compliquent. Donc, on est vraiment là sur du traitement, tu vois.
Moi, je pensais vraiment à la question, par exemple, la Q10 qui est tellement...
Je me suis complètement...
Non, mais tu vois, toi, t'es parti sur autre chose, mais t'inquiète, je vais refaire une autre question. Comme ça, tu peux aussi me dire, par exemple, la Q10, j'en parle aussi beaucoup dans la TP, dans l'énergie, etc. Du coup, le fait de savoir, par exemple, qu'à 30 ans, ça commence à descendre... Personnellement, ça me fait un peu peur, tu vois, et de me dire je vais avoir besoin vraiment de la Q10 si je veux que tout le reste fonctionne normalement, tu vois.
Alors, tu peux la faire doser, la Q10, donc tu peux vérifier où tu en es. Là aussi, il y a des valeurs labo, des valeurs optimales. Le coenzyme Q10, c'est un nutriment, comme tu l'as présenté, qui est très important, que ce soit pour le stress oxydatif, c'est-à-dire qui permet de protéger les cellules du vieillissement. Et c'est un nutriment très important pour la production d'énergie. Donc, il est utilisé pour les capacités cognitives, dans la fatigue chronique, pour les sportifs d'endurance. Et c'est aussi un actif très utilisé en anti-âge. Donc, c'est un élément, c'est une coenzyme qui est très intéressante en supplémentation. Maintenant, là où je veux rebondir, c'est ce que tu as dit par rapport à la peur. Moi, quand j'ai vu mon premier cheveu blanc, j'en ai pas encore beaucoup, mais quand j'ai vu mon premier cheveu blanc, j'ai commencé à me questionner. Tu vois, là, il y a la question du vieillissement à 30 ans qui se pose. Et cette question du vieillissement, elle est centrale chez tout le monde. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on traverse une phase où on est dans l'acceptation et puis on accepte de vieillir. En fait, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, des questions que peut-être nos parents ne se sont pas posées, nos grands-parents ne se sont pas posées, parce qu'aujourd'hui, on est dans un niveau de confort tel qu'on a du temps de se poser toutes ces questions. On a le temps de se poser toutes ces questions, tu vois. Et donc, selon moi, il faut vraiment pas rentrer dans la peur et dans le... Si vraiment je voulais vous pousser à acheter, je vous dirais attention, il faut absolument prendre du coenzyme Q10, il faut absolument prendre du collagène, etc. Vous allez vieillir, c'est pas bien, c'est dangereux. Non, voilà. Moi je prends du coenzyme Q10, tu vois, je le prends dans un complexe. Je considère que c'est très intéressant la supplémentation à plein de niveaux, mais il faut pas non plus que ça nourrisse des peurs, des craintes intérieures.
Ok, c'est clair pour moi. On va passer rapidement sur les quatre problématiques les plus demandées en pharmacie en 2024 selon Synadiète. La première, c'est la vitalité, l'immunité. J'imagine en plus que souvent à l'approche de l'hiver, les premiers virus, on a envie d'importer un peu plus de vitamines, de nutriments, par habitude peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on prend et comment on choisit par rapport à cette problématique-là?
Ok, alors, pour la vitalité et l'immunité, c'est vrai que c'est deux choses qui peuvent se recouper énormément, puisque l'immunité dépend énormément de l'énergie qu'on a à disposition pour alimenter le système immunitaire. Donc, l'énergie, c'est pas à l'approche de l'hiver, c'est toute l'année. C'est-à-dire que c'est pas en une semaine que vous allez remonter vos glandes surrénales, votre thyroïde qui est déficiente, vos mitochondries qui fonctionnent plus, parce que vous êtes sédentaire, parce que vous dormez mal, parce que vous êtes carencé, donc c'est... J'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais il faut commencer. Mais ce sera peut-être sur l'hiver suivant que vous allez pouvoir obtenir les bénéfices. Donc, la question de l'énergie, la vitalité, elle est très large. Elle dépend des hormones, des vitamines, des oligo-éléments, du mode de vie, du sommeil, de l'exposition à la lumière, de l'activité physique, de la qualité de l'alimentation. Donc, je peux pas donner un ou deux micronutriments comme ça, tu vois, ce serait un peu trop réducteur. Par contre, la question de l'immunité, donc vous sentez que vous êtes dans une période épidémique, endémique, vous avez votre voisin qui est malade, vous allez en pharmacie, vous voulez pas tomber malade, le premier réflexe, ça va être la vitamine C, qui est connue, reconnue, et on va fractionner les prises. On va essayer de fractionner. Alors, soit on utilise des vitamines C classiques, acide ascorbique, non liposomales. Et là, dans ce cas-là, on va utiliser 250 mg à peu près maximum. On peut monter jusqu'à 300. Au-delà, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas absorber plus. Et on va fractionner. On va le prendre entre 4 et 8 fois dans la journée. Donc, 4 fois, on va avoir 1 gramme. En fait, c'est même plus. C'est entre 4 et 12 fois. Donc, entre 1 et 3 grammes par jour. Donc 1 à 3 grammes, c'est 1000 à 3000 mg. Et donc, si on veut fractionner, parce que la vitamine C ne peut pas s'absorber à plus de 250 mg, donc il faut attendre la digestion suivante, en quelque sorte. En tout cas, on peut pas fonctionner comme ça. Et après, il y a une autre technique, c'est d'utiliser de la vitamine C liposomale, où là, on va pouvoir absorber beaucoup plus en une fois. Le seul truc, c'est que en prévention, si on n'est pas malade, c'est pas indispensable parce que la vitamine C, c'est pas une vitamine qui est stockable dans l'organisme. Donc, quand vous prenez de la vitamine C liposomale 1000, c'est très justifié quand vous commencez à tomber malade. Et là, vous allez apporter peut-être 3000 mg en 3 prises et vous êtes sûr d'absorber tout d'un coup. Et là, c'est très efficace. Mais dans une démarche de prévention, peut-être prendre de la vitamine C classique et prendre, dès l'arrivée des premiers symptômes ou en prévention, parce que quand les premiers symptômes sont là, c'est déjà que l'infection est là. Donc, on peut prendre, en hiver en tout cas, 1 gramme dispatché en 4 prises. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a des contre-indications pour la vitamine C. C'est notamment les calculs rénaux. Pour des personnes, c'est pas pour tout le monde, parce que là aussi, il y a différents types de calculs, et la vitamine C va être problématique surtout après 500 mg pour les personnes très sensibles, ou 1000 mg. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas non plus consommer de vitamine C.
Ok, c'est très clair. On passe au sujet suivant, c'est le stress, le sommeil. Dans ce cas, il vaut mieux partir sur quoi? J'avais une liste, magnésium, mélatonine, 5-HTP, GABA ou rhodiola.
Alors, on va faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que la mélatonine, elle est très vendue en pharmacie. Quand elle est bien donnée, elle est très efficace parce que souvent, on donne trop de mélatonine d'un coup. Et souvent, les gens ne l'absorbent pas correctement. Ils ont besoin d'une vitamine, de la mélatonine en sublingual ou bien à libération prolongée pour avoir les effets durant la nuit, pour les réveils nocturnes. Mais la mélatonine, je vais la garder plutôt, pas en dernier recours, mais pour certaines populations, les personnes âgées qui fabriquent plus assez de mélatonine, sachant que la mélatonine, c'est un antioxydant qui a des effets très positifs sur le cerveau, sur la mémoire, donc Je le garde un petit peu dans ma boîte à outils, mais pas pour tout le monde. Je vais d'abord recommander du magnésium, donc du bisglycinate. On peut rajouter de la glycine aussi avant de dormir. Et moi, j'ai un petit truc que j'adore faire, c'est le myo-inositol également, que je combine au magnésium, qui va améliorer la communication entre au niveau des récepteurs, notamment au niveau de la sérotonine. Donc, ça permet, combiné au magnésium et à la glycine du magnésium, d'obtenir des résultats intéressants.
C'est la première fois que j'entends ça.
Myo-inositol, bisglycinate de magnésium, et puis après il y a le GABA qui peut être très intéressant aussi. Le GABA, chez certaines personnes, ça peut avoir un effet un peu trop sédatif, donc on commence à 200 mg. Il y a la question de la pénétration au niveau du cerveau, parce que pendant longtemps en fait on a eu ce problème là de la pénétration au niveau de la membrane hémato-encéphalique du GABA. Donc on disait que voilà, le GABA il est pas bien absorbé, il faut en donner un peu plus. C'est surtout ça en fait, il faut en donner plus, et faut pas hésiter dans certains cas à monter à 600 mg. Et puis tu as dit le 5-HTP qui est précurseur de la sérotonine, aussi intéressant. Et tu as parlé, la rhodiola, on va plutôt la prendre le matin. Si on veut une plante adaptogène pour essayer d'abaisser le cortisol, ça va plutôt être l'ashwagandha le soir. Mais attention, chez certaines personnes, l'ashwagandha peut donner des effets paradoxaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça agit sur la baisse du cortisol et ça peut diminuer la résistance au cortisol. Donc, je ferme la parenthèse.
Ok, donc... Par contre, rhodiola, ashwagandha plutôt pour le stress.
Ouais.
Dans ce cas-là, sommeil, magnésium, myo-inositol, glycine,
GABA et la théanine aussi, qui permet. Ça va pas avoir un effet sédatif, la théanine, mais ça va avoir un effet sur l'anxiété.
Ok. On continue avec la troisième problématique la plus demandée, c'est la digestion. Et là, j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais en tout cas, par exemple, en pharmacie, etc., on propose beaucoup de probiotiques, prébiotiques. Est-ce que tu recommandes ?
Alors moi, je ne suis pas un des seuls, mais j'utilise les probiotiques avec vraiment parcimonie, avec précaution. Parce que les probiotiques, déjà, bon, il y a beaucoup, beaucoup de probiotiques différents. Les probiotiques généralistes, ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Mais ensuite, il y a des personnes qui ont besoin d'une souche bactérienne très spécifique. Très, très, très précise, pardon, en fonction de la problématique, que ce soit des diarrhées, de la constipation, en fonction de l'état du microbiote, est-ce qu'il y a un SIBO, est-ce qu'il y a un SIFO, donc candidose ou prolifération bactérienne, des fois c'est les deux aussi, est-ce que c'est une dysbiose de putréfaction, est-ce qu'il y a de la porosité intestinale associée. Donc là, on va faire du sur-mesure, et ça nécessite, selon moi, pour le coup, une consultation avec quelqu'un qui est spécialisé, parce qu'il y a tellement de souches différentes, et on va obtenir des effets très spécifiques en fonction de la souche qu'on utilise, et on peut faire plus de mal que de bien dans certains cas, notamment dans les SIBO, où le fait d'apporter des probiotiques peut augmenter la prolifération bactérienne. Donc,
nourrir les mauvaises bactéries, quoi.
En fait, ça va apporter des bactéries en plus, alors qu'il y a déjà trop de bactéries dans l'intestin grêle. Et donc, ça va donner tout un tas de ballonnements, etc. Donc, les probiotiques, moi, j'utilise avec parcimonie. Je vais utiliser, si je dois les utiliser pour tout le monde, ce sera quand il y a une antibiothérapie en même temps et un petit peu après. Et puis, pour la digestion, moi, je vais plutôt recommander les enzymes digestives. D'ailleurs, il y a Victor avec qui vous bossez, qui est fan des enzymes digestives, qui est passionné de digestion d'ailleurs.
C'est Victor Laroche. Victor Laroche. Victor naturopathe sur Instagram.
Et il en parle énormément, donc je vous invite à le suivre. Moi, c'est plutôt les enzymes digestives que je vais recommander, de l'HCL bétaïne pour acidifier l'estomac, avec quelques précautions pour les personnes qui ne fabriquent plus assez d'acide chlorhydrique. Et puis, il y a la question des plantes du foie, parce que le foie fait partie c'est un organe digestif qui va permettre de fabriquer la bile pour la digestion des graisses. Il y a la question de la constipation avec est-ce qu'on augmente les fibres, est-ce que c'est pas un problème d'excès de fibres aussi dans certains cas, est-ce que il y a pas un problème aussi d'hydratation de la muqueuse intestinale. Donc, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais si je dois donner une recommandation de base, et là je rejoins totalement Victor, ce sont les enzymes.
Ok, donc plutôt enzymes...
Pour la digestion, enzymes digestives.
Quand on a des problématiques.
Et après, bon, le classique charbon végétal pour calmer les fermentations. L'artichaut, ça va être pour le foie, c'est une plante du foie qui peut être intéressante. Il y a les plantes amères, les tisanes digestives que vous faites. Vous avez un complexe qui est super dans les plantes amères, avec plein de plantes qui permettent d'améliorer la sécrétion d'acide au niveau et d'enzymes au niveau de l'estomac.
Ok. Et le dernier, c'est pour moi le plus surprenant, parce que c'était une des quatre problématiques les plus demandées en pharmacie, c'est les voies respiratoires. Et là, j'avoue que j'étais un peu moins inspirée sur la liste des trucs que je pouvais citer. Je connaissais que la NAC, ou les gélules d'huile d'eucalyptus, vraiment là, quand on a des muqueuses, voilà. Toi, tu penses à quoi ?
Alors déjà, je pense à protéger des infections. Donc, il y a la vitamine C dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a certaines vitamines, notamment la vitamine A, quand on est carencé. Donc là, on parle d'une carence. La vitamine A, c'est une vitamine très importante pour l'immunité des muqueuses. On a également le zinc, qui est un anti-infectieux. Et là, on va avoir, comme tu l'as dit, la NAC, la N-acétylcystéine. Attention pour les personnes qui sont intolérantes au soufre. Quand il y a des intolérances au soufre, ça peut être compliqué. On va plutôt choisir de la NAC à libération prolongée que vous avez sortie récemment, qui va se diffuser plus lentement et qui peut permettre à certaines personnes de consommer de la NAC, surtout quand il y a des problèmes gastriques ou intolérance au soufre. Mais bon, même en intolérance au soufre, on fait attention. La NAC, ça fluidifie le mucus. Donc, ça fluidifie les sécrétions de manière à les éliminer plus facilement. Après, on a des acides aminés comme la tréonine qui permet également d'agir sur la production de mucus. Et on va avoir toutes les plantes, toute la phyto, l'aromathérapie, que ce soit l'échinacée, que ce soit la propolis. Il y a plein de choses pour les huiles essentielles que tu vas inhaler. Là, c'est un sujet qui, là aussi, nécessite peut-être plus de temps parce qu'il y a des contre-indications en fonction de certaines huiles. Je préfère pas ouvrir cette boîte.
Ok. Et ensuite, dans les autres besoins spécifiques, du coup, qui sont pas là dans les quatre que j'ai cités, il y avait le sport. On en a parlé déjà pas mal, mais je voulais juste qu'on voit un peu la supplémentation un peu usuelle d'une personne sportive. On a parlé protéines, créatine. Est-ce qu'il y a d'autres acides aminés, d'autres choses qu'on peut mentionner?
Alors là aussi, dans le sport, ça dépend quel sport tu vas pratiquer. Tu as des sports de force, tu as des sports d'endurance, tu as la supplémentation pour la performance de force, pour la performance d'endurance, et tu as des compléments alimentaires pour la récupération, pour la convalescence, pour les blessures. Et après, il y a la question du sommeil aussi qui est centrale, il y a la question de la gestion du stress. Il y a des sportifs qui ont besoin aussi de prendre des nootropiques comme le Bacopa, les substances qui permettent d'améliorer les fonctions mentales. Bon, pour revenir au sport, globalement, voilà, tu as la créatine qui est un peu le complément le plus étudié, le plus efficace pour la force et la masse musculaire, pour la prise de masse musculaire. Ça ne va pas vous rendre bodybuilder si vous êtes une femme, ça ne va pas vous rendre bodybuilder si vous êtes un homme, mais ça peut être efficace, c'est efficace pour beaucoup de gens pour gagner de la force. Voilà, sans rentrer dans les détails, voilà, ça agit sur la force. Les protéines en poudre, les acides aminés, alors les acides aminés, on a des acides aminés spécifiques pour agir sur tel ou tel axe, ça peut être la vasodilatation, comme l'arginine, ça peut être la concentration, les BCA qui peuvent agir là-dessus aussi, ça peut être la taurine pour, là aussi, pas la vasodilatation, mais le système cardiovasculaire en règle générale. Il y a plein d'acides aminés qui vont agir spécifiquement, la glutamine qui va agir sur les parois intestinales pour les sportifs d'endurance qui courent pendant très longtemps et qui vont venir épuiser la glutamine intestinale, ce qui peut les amener à développer des troubles digestifs de manière chronique. Et après, tu vas avoir donc les protéines, donc la whey qui est très souvent conseillée. Donc, il y a la whey, la vraie whey, c'est-à-dire la protéine de lactosérum, ça vient du petit lait, donc ça vient de la vache. Et après, il y a les protéines végétaliennes, à base des légumineuses, de céréales, qui sont aussi hydrolysés. Donc vous avez les deux sources, et là on va chercher à remplir un apport protéique qui n'est pas atteint via l'alimentation. Donc là aussi, c'est à utiliser avec parcimonie, dans le sens où tout le monde n'a pas besoin d'augmenter son apport protéique. Et parfois même, on a tendance à augmenter son apport protéique de manière inutile, ce qui va nous faire prendre du poids, ce qui va nous faire grossir. On le voit chez beaucoup d'hommes qui se mettent à la musculation et qui veulent faire des prises de masse et qui prennent des shakers de whey toute la journée. Et en fait, ils font que du gras avec un peu de muscle, mais ils grossissent surtout parce qu'ils apportent trop de protéines. Ils apportent des calories supplémentaires et les protéines en trop, eh bien, elles vont être métabolisées en glucose et puis en tissu adipeux, même si ça va être plus difficile de transformer évidemment les protéines en tissu adipeux qu'en apportant d'autres macronutriments directement. Donc, c'est pas une nécessité pour tout le monde, mais ça peut être un très bon réflexe quand on n'arrive pas à avoir les valeurs protéiques journalières. Alors, personne n'est carencé en protéines en France, en tout cas. Par contre, on n'est pas tous dans des valeurs optimal pour tout ce qu'on recherche. Voilà, c'est juste ça. Et puis après, il y a la question des protéines pour la satiété, pour la régulation du poids, du métabolisme. Il y a les acides aminés qui peuvent être utilisés pour plein d'autres fonctions, que ce soit le système nerveux, que ce soit pour la thyroïde, voilà, exactement, le système hormonal, le système enzymatique, le système immunitaire également, on a besoin de protéines. Donc, il faut faire la différence là aussi entre je suis carencé en protéines, ce qui n'existe quasiment plus en France, et j'ai besoin d'un peu plus de protéines parce que j'ai 60 ans, qu'il y a la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, il y a l'ostéoporose qui pointe son nez, et j'ai besoin aussi de faire attention à la quantité de lipides, glucides que je mets dans mon assiette, et donc dans ce cas-là, je vais augmenter un peu les protéines pour avoir plus de satiété. Parce que j'ai pas envie de faire un excédent calorique, et donc je régule ma satiété grâce aux protéines qui agissent sur la vidange gastrique.
Ok, et j'ai aussi le fer. On en parle parfois dans le domaine du sport. Est-ce que c'est utile?
Alors le fer, là aussi, petite précision, petit avertissement. On prend du fer uniquement quand on a une carence qui est objectivée par un bilan sanguin.
Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure.
Une fois qu'on a objectivé une carence, ce qui est très courant chez les sportifs d'endurance et chez les hommes également, parce que le sport d'endurance, ça nécessite beaucoup d'oxygène vers les muscles, vers les organes qui nous permettent de faire la performance. Et donc, cet oxygène, elle est transportée par une protéine qui s'appelle l'hémoglobine et également la myoglobine vers les muscles. Et donc, on a besoin de beaucoup de fer pour transporter l'oxygène quand on est des sportifs d'endurance. Et il se peut que l'apport alimentaire ne convienne pas. Donc, on voit des carences chez les hommes sportifs, des carences en fer, mais après, les carences chez les femmes, c'est en dehors du sport, c'est courant. Donc, là aussi, il va y avoir la nécessité d'avoir potentiellement un apport exogène en fer pour certaines personnes, mais toujours avec un bilan préalable.
Merci. En tout cas, j'ai plus qu'une seule question. Et c'est une question un peu spécifique, il faudra que tu m'arrêtes si je me trompe. Quand on consomme des compléments alimentaires, on ne consomme pas simplement l'ingrédient principal, il y a aussi l'enveloppe de la gélule, les excipients, les agents de charge, de remplissage, les liants, les enrobants, les conservateurs, et même parfois on consomme des choses qu'on ne sait pas forcément, on parlait des métaux lourds, des pesticides, des nanoparticules, bref, il y en a plein. Chez Someday, on a sorti un livre récemment de 400 pages sur la fabrication et les coulisses de la fabrication des compléments alimentaires. En vrai, je pense que quand on est consommateur et consommatrice lambda, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et surtout, on ne sait plus trop si on doit prendre que du bio, on doit prendre certaines choses. C'est un peu confus dans la tête. Est-ce qu'il faut prendre juste des trucs purs en poudre bio ou est-ce qu'il faut vraiment se tourner que par l'alimentation? Tu vois, c'est un peu trop d'informations. Comment on fait justement pour mettre les choses de côté et se concentrer vraiment sur la priorité?
Alors là, il y a deux questions. Il y a la question de la forme qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'on utilise des poudres, des gummies, des gélules? Et après, il y a la question de si on utilise des gélules, ou enfin, même dans les gummies, etc., quels sont les ingrédients et comment reconnaître les mauvais ingrédients, des bons ingrédients, etc.
Ouais, même ça, même les gens se disent, non, moi, je prends que du Made in France, je prends que du bio parce qu'au moins, je suis
sûr.
Alors,
il n'y a plus de Made in France. Ah, oui. Non, le Made in France, dans le sens où Made in France, c'est peut-être mis en gélule en France, mais après c'est souvent des façonniers à l'étranger. Bon, quoi qu'il arrive, en Europe globalement, et bon, c'est peut-être en train de changer avec ce qui avec les pactes avec les États-Unis là, par rapport à l'UE, les normes, etc., mais globalement en Europe, on est quand même relativement bien protégé vis-à-vis de la qualité des produits. Donc déjà dans l'Union européenne, c'est pas qu'il faut pas faire attention, mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on ait autant d'attention sur ce qu'on met dans ses gélules alors qu'on se focalise beaucoup moins de ce qu'il y a dans son assiette. Je dis pas qu'il faut pas faire attention à ce qu'on met, à ce qu'il y a dans les gélules, évidemment. Mais des gens vont s'arrêter sur un additif qui est en microgrammes, donc c'est-à-dire une dose infiniment petite, alors que ils vont manger des produits déjà non bio, bourrés de pesticides, avec de la viande de supermarché. Ils vont aller au restaurant 2-3 fois par semaine, donc des produits de mauvaise qualité. Même si vous allez dans un bon restaurant, le restaurateur, il va pas acheter du bio, il va pas aller au maraîcher du coin chercher les légumes pour le mettre dans votre assiette. Non. Donc il y a un vrai décalage entre la peur du complément alimentaire et l'attention que les gens portent à leur assiette. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des produits, donc comme on l'a dit, en Europe, globalement, ça va. Mais on peut aller plus loin. Et donc, c'est pas pour parler de Someday, mais Someday, vous avez fait le True Clean Label. Vous avez créé un label pour être au-dessus de la législation, c'est-à-dire vous forcer, vous mettre vous-même des bâtons dans les roues à chercher des obligations qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que vous êtes fixé un barème encore plus important, que ce soit au niveau des additifs, l'utilisation de certains additifs qui sont complètement absentes des produits Sunday, qui sont pourtant autorisés dans l'UE, qui sont dans la majorité des autres compléments alimentaires, que ce soit la gélule, qui est complètement différente chez vous, la capsule, pardon, l'enrobage, en fait. Vous avez choisi de ne pas utiliser certains produits qui sont pourtant autorisés dans les gélules HPMC, qui sont utilisés partout. Je vous invite à lire sur le site l'étude indépendante que vous avez commandée, qui permet de comparer les gélules HPMC du classique et les gélules HPMC de chez Sunday. Donc, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments que vous avez mis dans le Truclean Label que je n'ai pas lu en entier, mais j'avais bien, bien, bien feuilleté. Et c'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, vous avez, quand vous êtes chez Sunday, on a quand même la chance d'avoir des produits avec des normes et avec le degré, la volonté de faire quelque chose de plus clean qu'ailleurs. Donc, il faut en profiter. Maintenant, pour répondre à la deuxième question concernant la forme, concernant le type de produit qu'on va consommer, eh bien, ça dépend déjà des besoins. Quand vous consommez des gélules, il y a la gélule qui fait que vous ne pouvez pas mettre tout ce que vous voulez dans la gélule. Mmh. Donc, si vous voulez, par exemple, prendre 10 grammes de quelque chose et que vous prenez des gélules, et que dans une gélule, maximum, on puisse mettre 500 mg ou 1 gramme. Si vous prenez 1 gramme de la gélule, ça va être une grosse gélule, que vous avez du mal à avaler les gélules, il va falloir avaler 10 gélules.
Ouais. Voilà.
Alors que si tu prends de la poudre, eh bien, tu as juste à mettre peut-être une scoop dans une compote et ça passe beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est la question de la gélule. Mais il y a des gens qui ne tolèrent pas le goût, l'odeur de la poudre en question. Vrai. Donc dans ce cas-là, il faut leur conseiller des gélules. Après, il y a la question des gummies qui va être très intéressante pour faire prendre des compléments alimentaires aux enfants ou à d'autres personnes qui n'arrivent pas à avaler des gélules et qui n'arrivent pas à consommer la poudre. Après, vous avez aussi des produits en spray, en gouttes, en perles pour les enfants, à croquer, qui sont très très bons, notamment les oméga 3 que je donne à mes filles. Donc, ce sont des perles à croquer avec un petit goût citronné. Donc, vraiment super. Donc voilà, il faut choisir en fonction de ses besoins, de sa capacité à absorber ou non des gélules, de sa tolérance à l'odeur et au goût. Hein. Moi, personnellement, tu peux me faire avaler ce que tu veux. Tu vois, pour ceux qui connaissent, quand tu prends du bleu de méthylène pur comme ça, c'est juste horrible. Donc, c'est comme si tu mangeais du Stabilo. Et bah, après, le reste, ça passe tout seul.
Merci en tout cas pour ces mots pour la fin. Du coup, si on n'a pas répondu à toutes les questions, même si on est allé en long, en large, en travers sur les compléments alimentaires, il y a toujours des questions. On va y répondre, j'espère, bientôt. On reprendra le temps de voir toutes ces questions-là en revue. Et vous pouvez aussi très bien mettre tout ça en commentaire. On repassera dessus, donc pas de panique. On fera notre mieux pour répondre la prochaine fois. En tout cas, merci hein, William, pour tous tes conseils, pour qu'on puisse bien te suivre. Tu peux donner peut-être tes réseaux sociaux et ouais, les autres moyens pour pouvoir discuter avec toi ou avoir quelques conseils.
Déjà, merci Noémie, merci à tous nos auditeurs. Moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est William-KDM. Il y a ma chaîne YouTube. Alors, je suis un petit peu moins sérieux au niveau de la publication sur YouTube, je suis très actif sur Instagram. J'ai aussi une communauté privée que j'ai lancée maintenant il y a 3 mois qui s'appelle Bouge ta santé. Donc vous avez tous les liens sur Instagram. Et il y a l'école Naturaneo avec la crème de la crème au niveau médecine fonctionnelle, micronutrition, naturopathie, qui ouvre en septembre. Donc là, la rentrée est close. Donc on réouvrira au mois de mars de l'année prochaine.
Et c'est pour former du coup
des naturopathes, ouais, mais avec une vision 360, pas uniquement traditionnelle de la naturopathie. Pour autant, on ne réfute pas la tradition, on essaie de mixer les deux et faire en sorte d'avoir des naturopathes qui vont réfléchir, qui vont ouvrir leur chakra.
Merci en tout cas William, merci. On se retrouve peut-être une prochaine fois. En tout cas, pour nous suivre aussi, c'est sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve au prochain épisode, à bientôt. Petite question que je demande à tout le monde. Quels sont, toi, tes compléments alimentaires que tu prends régulièrement?
Alors, ça dépend de la saison. Donc là, je vais te parler de l'été. En été, ce que je prends actuellement, c'est des oméga-3, de l'iode. Là, en ce moment, parce que grosse charge cognitive, je suis sur le Mito Support Ultra, qui est un complexe pour la mitochondrie, qui agit un peu comme un multivitamine, mais avec tout un tas d'antioxydants et des cofacteurs du coenzyme Q10, du PQQ, donc je l'adore vraiment. Je prends du myo-inositol, du magnésium. Non, je crois qu'en ce moment, c'est tout.
Oh, mais je pensais que ce serait beaucoup plus.
En ce moment, c'est l'été. En hiver, j'en prends un peu plus.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci, Noémie.